Cube Radio. Minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio.
Lundi 17 janvier, j'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue à Cube Radio en ce matin de neige. Là, on attend de voir la neige tomber. Là, il y a une faible couche dans le centre-ville de Montréal. C'est quand même froid encore ce matin, moins 14, moins 25 avec le refroidissement éolien. Mais il y a un avertissement de tempête hivernale pas mal partout au Québec. Là, pour Montréal, ça pourrait se traduire avec des accumulations de 15 à 25 cm, des rafales de vent, de la poudrerie, la neige qui devrait normalement cesser vers minuit. Neige qui bouleverse bien sur la rentrée scolaire. Si jamais vous vous demandez si votre école est fermée, TVA Nouvelles a la liste de toutes les écoles qui sont fermées en ce moment. Je vous dis, il y en a pas mal. Là, à peu près, on parle d'à peu près 1000 écoles qui sont fermées, qui ont été annoncées en prévision de cette tempête hivernale. L'école secondaire où je suis allé, qui n'avait jamais fermé, ou presque pas, pendant que j'étais là, ben, elle a fermé de façon préventive. C'est aussi la fin du couvre-feu. Beaucoup, beaucoup de nouvelles sur le front de la COVID. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Belle fin de semaine.
Oui, oui, tout à fait. Faisait beau hein, quand même. Il a fait froid, mais très, très beau. Parfait pour les activités hivernales. Puis il y avait du beau football de la NFL en plus.
Ben oui, c'était le début des séries.
Exactement, le début des séries. Il y a eu toutes sortes de matchs intéressants. Il y en a un autre ce soir, puis ça se poursuit fin de semaine prochaine.
Bon, on va parler avec Jean-François dans les prochaines minutes. Nous disions donc que sur la COVID, les hospitalisations qui continuent d'augmenter, on est à peu près à 3300. C'est toujours en hausse. On nous disait... Au moins, on est en bas d'une hausse de 100. Ceci dit, ça fait quand même pas mal de monde encore. Là, si on dit que Omicron est moins dangereux pour les individus, pour le système de santé, il frappe et il frappe très fort. Selon le Devoir, toutefois, la fin de semaine semble avoir été un peu moins folle que prévu. Là, on est à peu près à 90 % du taux d'occupation. Dans le journal ce matin, on parle de ses parents inquiets par la rentrée qui essaient de voir la cohérence dans les messages du gouvernement. On dit on a fermé les écoles avant les fêtes alors que les chiffres étaient beaucoup moins inquiétants qu'en ce moment. Qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment aberrant. D'autres qui regardent les urgences qui disent les hôpitaux sont pleins. Est-ce que vraiment c'est une bonne chose d'envoyer nos enfants à l'école? Alors, beaucoup, beaucoup de questions. Et des fois, on peut voir certaines incongruités aussi, là, notamment sur le masque N95. Il y a une version KN95 pour le grand public. On interdit de le porter aux professeurs. Sur la commission scolaire de Montréal, c'est pas juste vous n'aurez pas accès à ça, on vous interdit de le porter. Alors que du côté de Radio-Canada, on dit ouais, ben il y a des experts, notamment l'une des expertes mondiales en transmission aérienne des aérosols, des pathogènes par aérosol. Elle ne comprend pas pourquoi le Québec minimise l'utilité de ces masques-là. Elle dit sincèrement, les masques médicaux là, sont souvent pas assez ajustés, laissent passer des particules sur le dessus, sur le côté. Et elle croit que ces masques-là devraient être portés partout où il y a de nombreuses personnes dans un endroit clos pendant une longue période. Le gouvernement fédéral aussi fait cette recommandation de dire que ce masque-là, le KN95, offre une meilleure protection. Vendredi, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC aux États-Unis, a mis à jour ses directives pour dire que le public maintenant pouvait mettre ces masques-là parce qu'ils offrent la meilleure protection contre la COVID. Ça va peut-être changer ici. On va y arriver un jour. Alexandre, parlait de ces influenceurs. Il y en avait dans l'avion. Là, il y en a qui un qui fait parler de lui parce qu'il fait la promotion d'un jeûne de plusieurs jours. Et ça inquiète pas mal de monde.
Oui, ça inquiète en particulier les experts et en psychologie, là, par exemple, des troubles d'alimentation et les nutritionnistes. Parce que et il est pas le seul, hein, faut le préciser. Là, c'est vraiment un parce que c'est un influenceur québécois. Il y a à peu près 60 000 adeptes qui le suivent. Lou Leclerc-Ponce, qui prodigue de toutes sortes de conseils en alimentation. relations, entre autres. Lui fait la promotion du développement personnel, du bien-être, de la santé et autres. Mais évidemment, il n'est pas lui-même expert en alimentation. C'est ce qui fait
nutritionniste.
C'est pas du tout un nutritionniste. Et lui dit, pas besoin de nutritionniste. Je viens de faire un jeûne de 62 heures sans nourriture, juste de l'eau. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il ajoute par la suite qu'on nous a menti, qu'on nous a rendu dépendants d'un système qui nous habitue à la surconsommation. Bref, toutes sortes de paroles un peu inquiétantes qui se lancent dans un grand, disons, un grand courant de médecine holistique comme ça. C'est beaucoup poussé et aux États-Unis et ici, un peu partout dans le monde, ces espèces de conseils-là de jeûne hydrique. Il y a des bienfaits qui sont encore à étudier du jeûne, entre autres, mais honnêtement, un jeûne ne fait pas la moitié, c'est pas le tiers des bienfaits que ça promet. La science n'est pas capable de prouver tous les bienfaits qu'on attribue au jeûne, et si on n'est pas prêt à passer ce genre de pratique-là, ça peut être extrêmement dangereux. Le corps a besoin de s'alimenter, a besoin de ses nutriments, et de boire que de l'eau, ça peut être extrêmement dangereux. Puis je le dis, dans ce courant-là, il y a des gens qui pensent, entre autres, qu'ils peuvent guérir la COVID avec des douches froides, manger des légumes et des fruits seulement. L'ai vu. C'est un mouvement qui revient. Puis c'est pas... La médecine naturelle, oui, c'est bon pour votre organisme. Ça peut l'être. Mais faites attention. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Et oubliez pas, quelqu'un qui n'a pas une formation comme ça en médecine, en nutrition, vous devriez peut-être pas suivre tous ces conseils.
Et un mot sur les deux jeunes Britanniques là, qui ont été arrêtés en lien avec la prise d'otages aux États-Unis.
Ouais, ça s'est suivi là, hier soir, la police britannique de contre-terrorisme qui a arrêté deux jeunes en lien justement avec cette prise d'otages-là qui a tenu en haleine tous les États-Unis là, samedi pendant 10 heures. Un homme qui a tenu en otage 4 personnes dans cette synagogue. Finalement, ça s'est terminé. Les 4 otages sains et saufs. L'homme, le preneur d'otages, est décédé. On sait toujours pas avec certitude s'il se serait suicidé aussi. C'est les forces de police qui l'auraient abattu. Malik Faizam Akram était âgé de 44 ans et demandait la libération d'Afia Siddiqui, une scientifique pakistanaise qui a été condamnée en 2010 par un tribunal fédéral de New York à 86 ans de prison, réclamait sa libération. Donc, pour l'instant, les policiers qui ne croient pas qu'il y ait de lien directement avec de l'antisémitisme, mais tout de même, ça s'inscrit dans des actes de violence contre des lieux de culte comme ça, contre des communautés juives.
Et là, il y a une infirmière italienne qui a faussement vacciné, qui s'est fait épingler.
Ouais, on en a lu quelques-unes de ces histoires-là autour de la planète, et ça, c'est la plus récente, hein, la police de Palermo en Italie, qui ont arrêté cette infirmière, qui, elle, entre autres, prenait des gens qui sont anti-vaccins, qui venaient la voir, et faisait semblant d'arriver pour les vacciner, mais hop, juste avant, elle mettait le contenu de la seringue dans un mouchoir, et ensuite les piquait avec absolument rien dans la seringue, ce qui leur permettait à eux d'avoir leur passeport vaccinal pour aller au restaurant, dans les bars, dans les transports en commun, et autre. Mais le problème, c'est que les autorités ont mis une caméra cachée à l'endroit où elle vaccinait. Puis les images ont été rendues publiques samedi. On peut vraiment voir là, l'infirmière, je les ai regardées moi-même, tout versé dans un mouchoir. C'est même pas subtil. Et donc, en ce moment, elle fait face à des accusations de contrefaçon et de détournement.
Hey boy, il y a tellement de pays qui auraient aimé avoir ces doses-là qui se sont retrouvées dans des mouchoirs. Alexandre, merci beaucoup.
Salut.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière Abdel-Fadel.
Dominique Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Alors, on le disait, rentrée scolaire aujourd'hui, techniquement, qui va être repoussée en présentiel parce que Dame Nature s'est ajoutée à tout ça. Clairement, on ne contrôle pas beaucoup d'affaires, finalement, avec cette rentrée scolaire-là. De façon plus générale, Yasmine, c'est ça?
C'est ça, Dame Nature est du côté des parents inquiets, des enseignants inquiets, de tout ce personnel qui se pose des questions. Mais blague à part, ben, tu sais, tout était prévu pour aujourd'hui, puis ça va être repoussé à demain, ce retour qui est contesté d'une part et qui est super encouragé d'autre part à l'école. Et aujourd'hui, ce qui est un peu ironique, c'est que la semaine dernière, les élèves étaient en distanciel, apprenaient à distance, puis aujourd'hui, ben, c'est des journées pédagogiques où il n'y a pas d'apprentissage à distance pour la très grande majorité des élèves. Donc, une journée blanche, une journée de tempête, que les élèves en profitent.
Dominique?
Mais moi, je regarde le site là, de TVA pour savoir si l'école secondaire du plus vieux est ouverte. Jusqu'à date, oui. Alors, on ne vivra pas la même chose ici à Québec que vous vivez à Montréal. Mais bon, il est encore tôt, là. Les choses peuvent changer. En même temps, ça fait plusieurs jours que le gouvernement voit venir ça. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas installé des bulles autour des écoles pour empêcher la neige de tomber. Encore une fois, le gouvernement...
Hey, Dominique, ils ont de la misère à mettre des masques qui protègent bien les profs, là.
Merci.
Bon, je voulais faire dans l'humour ce matin. Non, mais c'est sûr que ça pose beaucoup de questions, mais dont une qui cabotine un peu, mais je me la posais pour vrai. Est-ce qu'on est comme la dernière génération à avoir eu des vraies journées blanches? Parce que avec toute l'expertise qu'on a gagnée par Zoom, par Teams, pour les apprentissages qui se font à la maison, est-ce que à partir de maintenant, quand les jeunes vont devoir rater l'école à cause d'une journée de neige, est-ce qu'on va dire ben c'est facile maintenant, on est passé à travers la pandémie, tu ne t'en sauveras pas, tu pourras pas faire comme tes parents et tes grands-parents et aller jouer dans la neige. Tu vas devoir apprendre une partie de ton cursus aujourd'hui, ce qui voudrait dire donc qu'on est la dernière génération à avoir vécu ça, je sais pas, je me le demande. Est-ce qu'on va vouloir garder beaucoup de vestiges de la pandémie après la pandémie?
Ben, si on peut garder les bons côtés, ce serait tant mieux.
Ben, ça va être de l'évolution qu'on va avoir gagné plusieurs années en quelques mois. Mais la rentrée de demain, parlant de la rentrée officielle de demain, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, plusieurs enseignants, plusieurs commissions scolaires et écoles qui ont écrit aux parents pour leur dire de mieux habiller leurs enfants, étant donné qu'on va ouvrir les fenêtres pour aérer les classes. Fait qu'habillez vos enfants pour pas qu'ils aient froid. Ça, je trouve ça, si on parlait d'avancer sur le volet technologique, si ça, c'est pas un recul, habiller vos enfants pour qu'on puisse aérer les classes, puis un retour de 20 ans, plus que 20 ans, mon Dieu, en arrière, c'est complètement ridicule. Espérons que cette journée supplémentaire, cette journée de tampon d'aujourd'hui, va permettre une meilleure réflexion concernant la ventilation, concernant la purification d'air, concernant les filtreurs à air que l'on refuse aux écoles du Québec. Et concernant les N95, la semaine dernière, je vous disais, ben voyons donc, OK, s'ils veulent pas les donner, les profs, ils vont pouvoir porter les leurs. Ben même ça, ça va être interdit de porter son propre N95. Tu veux te surprotéger? Non. Le gouvernement paternaliste va te dire que tu n'as pas le droit de te surprotéger. Porte donc un masque de procédure que tout le monde dit qu'il n'est pas assez pour contrer les aérosols. Parce que le gouvernement l'a dit. Puis le gouvernement du Québec, là, il a une science qui ne peut pas être contestée, contrairement à tous les autres pays du monde. Voyons donc.
Lundi matin, Yasmine, t'es en forme. Non, mais ça, ce qu'on voit, c'est que c'est un centre de service. Vous me reprendrez si c'est pas le cas.
Mais c'est à Montréal. C'est quand même le plus gros au Québec.
C'est quand même le plus gros, mais qui a tenu le crayon? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que c'est validé avec le ministère? Est-ce qu'on doit extrapoler? Moi, j'en ai vu dans mon temps en cabinet des gens qui prenaient des initiatives, puis là, tout d'un coup, effectivement, c'était titré par un média ou par un autre que le gouvernement décidait d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'il faudrait peut-être être un peu prudent, mais effectivement, moi non plus, là-dessus, je me range du côté de Yasmine, je comprends pas pourquoi on peut empêcher les gens de le faire. L'objectif, c'est que les gens soient à l'aise. Je peux comprendre qu'on soit pas capable d'aller livrer des paquets de KN95 à tous les profs chez eux d'un matin. Ça, c'est une chose, mais on devrait quand même leur permettre, s'ils le souhaitent, de se dire, ben écoutez, moi, ça me tente, je peux m'en procurer. Je veux l'essayer, je vais le faire. Alors, go.
Bon, demain, peut-être. Espérons. On va voir si la tempête est à l'heure, puis si demain, on réussit à dégager suffisamment les routes pour que les enfants puissent se rendre. Hier, à Tout le monde en parle, François Legault était là, mais il y avait aussi Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous a finalement annoncé où il allait se présenter, et ce sera dans Bourget.
Bourget!
Êtes-vous surpris? Êtes-vous
Non, pas tant.
Il me semble que c'est une circonscription qui est gagnable, qui a été péquiste pendant quand même un bon moment sur l'île de Montréal. Dominique?
Ouais, disons, c'est toujours pas mon premier choix. OK, moi, je vais vivre et mourir avec mon premier choix jusqu'à l'élection de 2022. On s'en parlera le lendemain matin pour voir si effectivement
toi,
ça va
être la meilleure chose à faire. Tu voulais qu'il aille dans l'Est, Harold Lebel.
Je voulais qu'il aille dans Rimouski parce que, d'autant plus que plus le procès d'Harold Lebel est retardé, plus ça complique les choses pour lui pour être candidat. Je sais pas si ça s'est déjà vu ailleurs, quelqu'un qui est candidat et qui est en procès pour des accusations aussi graves au même moment, mais je suis pas sûr que tout ça, ça donne quelqu'un qui gagne les élections le soir de. Ceci étant, Bourget, moi, ça m'avait surpris, Bourget, pas pointé aux trembles, ça, tout le monde le voyait venir, mais que la CAQ remporte Bourget, j'avais été surpris. Et en même temps, pour les gens qui nous écoutent, là, sans tricher, essayez de me dire quel est le nom du député de Bourget, sans rien enlever à son travail. C'est un parlementaire qui est très bon dans les commissions, tout ça. Mais Richard Campeau, c'est pas la personne la plus connue.
Bien honnêtement, quand les conservateurs nous parlaient à l'élection de 2019, après l'élection de la CAQ, ils nous disaient « Ouais, ben de toute façon, la CAQ a quand même gagné un siège à Montréal, avec le seul siège à Montréal qu'ils ont gagné. C'est comme si on avait oublié que la CAQ avait deux sièges à Montréal, dont Bourget. Ouais. Sincèrement, dans la mémoire collective, la CAQ n'a qu'un siège à Montréal pour beaucoup de Québécois. Là.
Exact. Fait que c'est comme... en fait, c'est une circonscription qui est, oui, dans l'Est, mais qui touche Rosemont, qui touche Hochelaga-Maisonneuve, qui touche un peu Louis-Riel. Le problème pour le PQ, puis vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux, le 10-year challenge, là, une photo de nous il y a 10 ans, une photo de nous aujourd'hui, en 2008, le PQ faisait 50% dans Bourget, puis 10 ans plus tard, il en faisait 26. Fait que, est-ce que la présence de Paul Saint-Pierre Plamondon va permettre de changer tout ça? Puis d'autre part, moi, ça me fait un peu penser à M. Couillard qui avait choisi Robert Val en 2014. Souvenez-vous, tout le monde se dit « Mais Robert Val, pourquoi il s'en va là? » Mais c'est parce que s'il gagne, ça veut dire que ça a bien été pour son parti puis ça vaut la peine de siéger. Puis s'il perd, ben on passe à d'autres choses.
Ben, c'est quand même plus que ça. Tu sais, Bourget, c'était le comté de Makakoto. Il gagnait avec, tu sais, à part la dernière élection, évidemment, qui a perdu le siège avec 500 votes. 500 votes, ça reste quand même... quelque chose qui est reprenable pour le PQ. Le PQ faisait quand même des bons scores à Bourget, puis je rends à César ce qui appartient à César, puis je fais mon mea culpa, je disais que Paul Saint-Pierre Plamondon avait manqué de courage d'aller dans Marie-Victorin, mais je trouve quand même que c'est une bonne présence, là, tu sais, une bonne dose de courage de vouloir aller à Bourget. C'est pas un comté qui est aujourd'hui acquis au PQ, qu'il va falloir aller chercher. Pas juste ces 500 votes qui ont marqué la différence entre Richard Campeau puis Makakoto, mais avec depuis les dernières élections, la CAQ a monté dans les sondages. Il va falloir faire un effort supplémentaire. C'est une bonne décision de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, d'autant plus que ça rentre dans un narratif que on veut revenir sur l'île de Montréal, on veut combattre le déclin du français. Moi, je pense que c'est une bonne décision de Paul Saint-Pierre Plamondon de revenir dans Bourget.
Rapidement, est-ce que Québec solidaire pourrait brouiller les cartes là-dedans, comme c'est Montréal? Dominique, tu le disais, ça touche quand même des quartiers où Québec solidaire fait quand même bien avec le temps, les changements démographiques. Est-ce qu'on va avoir quasiment une course à trois serrée là-dedans?
C'était même une course à 4 la dernière fois. Là, tout le monde se tenait dans à peu près 10%. Les libéraux, entre les libéraux puis la CAQ, là, il y avait 6-7-8%. Donc, libéraux, quatrième, CAQ première. Donc oui, c'est sûr que QS, eux, probablement, qui se frottent les mains aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'il y avait déjà un candidat qui était pressenti pour le PQ dans Bourget. Et c'était Frédéric Bastien, l'historien, qui s'est présenté, qui a terminé quatrième à la course à la chefferie. Fait que je sais pas, j'ai hâte de voir où Frédéric Bastien va se présenter parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit échange, là, une pactation pour en arriver là.
Bon. Dominique, Yasmine, merci à vous deux. À demain. Bonne rentrée merci. Demain. Là.
Pour parler à Philippe-Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1-877-CUBE-RADIO 1-877-CUBE-RADIO
Cube Radio. Culture et société.
Salut Anaïs.
Bonjour Philippe-Vincent.
Alors, nouvelle un peu intense hier. On a annulé la première de Star Academy, le premier gala, le premier variété.
Absolument. Décision qui a été prise samedi très tard en soirée. Donc, 4 candidats qui ont testé positif à la COVID. Samedi à 20h, c'est le 4e candidat qui a testé positif. Et là, on s'est dit, écoute, pour la sécurité de toute l'équipe, on va devoir annuler, ce qui est une mesure d'urgence. C'est pas quelque chose qu'on voit évidemment régulièrement en télévision. Donc là, hier, j'ai parlé avec Jean-Philippe Dion. Je veux savoir un peu comment est-ce que ça s'est passé, là, l'évolution de la COVID, en fait, depuis le début du mois de janvier, alors que les candidats, les académiciens ont été gris officiellement l'Académie, on l'écoute.
Donc, à partir du 3 janvier, les candidats sont arrivés, ils ont commencé à être testés et ça a pris plus d'une semaine, en fait, avant qu'un premier cas sorte. Puis évidemment, ben c'est tout à fait normal, comme dans toutes les familles du Québec, au retour des fêtes, après avoir vu quelques personnes, il y a des cas qui pop, comme on dit, un peu plus tard. Donc, on a évidemment géré la situation. Puis, pendant toute cette période d'isolement-là, les candidats ils avaient à aller en répétition au cours des derniers jours, ben ils allaient à 2 mètres, masqués en tout temps. Il y avait tout un protocole, une équipe COVID autour d'eux. Donc, tout ça était très, très, très organisé. Mais au cours donc de la fin de la semaine, là, des derniers jours, ben là, il y a eu d'autres cas qui ont commencé à ressortir. Donc, est-ce que ça a été la résultante d'une infection parce qu'ils chantaient, puis à travers les masques, les gouttelettes se répandaient d'un candidat à l'autre?
Ça, c'est le mystère, Philippe Vincent, mais oui. C'est quand même particulier, tu sais, je veux dire, tout le monde est isolé, on a le masque, on a 2 mètres, et malgré tout ça, Omicron se passe, je veux dire, se promène comme jamais, donc là, les candidats sont plus isolés que jamais, il n'y a pas de répétition, on chante pas, je veux dire, tout le monde, à la limite, est dans sa chambre et ne sort pas pour s'assurer que le gala, donc le premier variété, aura lieu dimanche prochain. J'ai demandé aussi à Jean-Philippe Dion, disons, au niveau
organisationnel.
Ouais, de l'organisation. Trop compliqué pour un lundi matin. Ça nécessitait quoi, justement, hier, tout remettre ça une semaine après? Puis je te dirais que c'est de la job, on l'écoute.
C'est de déplacer toute l'équipe. Là, c'est à peu près 400 personnes à replacer complètement pour une semaine, parce que donc la saison va se terminer finalement une semaine plus tard. Donc, il faut organiser ça, s'assurer que l'académie est disponible, que le studio MES est disponible, que les équipements, les caméras, que tout le monde soit disponible également. Fait que c'est sûr que c'est tout un branle-bas de combat.
Donc, c'était une grosse journée hier et durant l'entrevue, j'entendais Jean-Philippe Dion sur son ordinateur là, appuyer sur les touches, répondre à des courriels. Je veux dire, il était dans le jus comme jamais hier.
C'était sa première lui aussi, là, tu sais, parce que c'est la vraie nature, c'est la première émission hier.
Donc, ben, première nature, effectivement, notamment avec Karine Vanasse, qui était extraordinaire, soit dit en passant, elle qui avait pris la parole une semaine avant sur les médias sociaux, disant à quel point elle avait adoré son passage à l'émission. Simon Boulris, que je trouve toujours aussi extraordinaire aussi, est tellement attachant, là, c'est un personnage, littéralement. Donc, ça a été quand même une belle soirée télé hier, mais repousser comme ça un variété, là, ça se fait pas en claquant des doigts, ça, je peux vous le garantir. Donc, rassurez-vous, vous pourrez voir toutes ces belles personnes et les découvrir enfin dimanche prochain pour le premier variété de Star Academy.
Bon, et triste nouvelle, le cinéaste Jean-Claude Laure s'est éteint durant la fin de semaine.
Ouais, c'est ce qu'on a appris. Jean-Claude Laure qui est décédé à l'âge de 78 ans à 22h33, 15 janvier, à la suite d'un AVC massif qui est survenu le 30 décembre dernier. Donc, c'est son fils, Philippe Vincent, qui en a fait l'annonce sur les médias sociaux. Et c'est ça qui, tu sais, les réalisateurs, souvent Jean-Claude Laure, c'est pas tout le monde nécessairement qui va connaître le nom de cet homme-là, mais si je dis lancer compte, si je parle de La Grenouille et la Baleine, l'émission Jasmine dans les années 90, Diva, entre autres, donc cet homme-là est derrière tous ces grands projets-là, lui qui a travaillé également sur District 31 en 77, qui a réalisé un film quand même avec William Shatner, c'est pas rien, Visiting Hour, donc c'est vraiment un grand de ce monde qui nous quitte, ça reste quand même 78 ans, c'est pas si vieux que ça, je te dirais, donc il y a plusieurs artistes, évidemment, hier qui ont pris la parole sur les médias sociaux, disant à quel point cet homme-là, au Québec, avait vraiment sa petite touche particulière au niveau de la réalisation, à quel point il avait amené des artistes plus loin dans leur carrière. Donc, évidemment, on salue toute la famille, on pense à eux, puis c'est un autre décès. Il me semble, à chaque semaine, j'arrive avec des décès en nom. Donc, c'est Jean-Claude Laure.
Ouais, non, c'est vrai, ça en fait quand même pas mal depuis le début de l'année. Et là, cœur de pirate, bonne nouvelle, on va rajouter quand même un peu de sourire à la fin de cette chronique-là.
Ben oui, cœur de pirate qui a mis bas, cœur de pirate qui a accouché ce week-end. Monde.
Deuxième,
deuxième, effectivement. Elle qui a publié durant, qui a quand même documenté, là, je dirais, sa grossesse sur les médias sociaux. Alors, une belle photo qui a été partagée sur ses médias sociaux hier. Donc, elle qui est maman d'un deuxième bébé, Arlo Flynn. J'adore ce prénom-là. C'est pas un prénom qu'on a l'habitude d'entendre, surtout ici au Québec. Donc, voilà, belle photo. Alors, j'avais envie de mettre ma chanson favorite de Cœur de pirate, Crier tout bas, en ce lundi qui est le Blue Monday, soit dit en passant, tempête de
c'est aujourd'hui.
COVID, tout ça, là, quand... fait qu'on va avoir une belle journée quand même.
Non, mais c'est si jamais vous vous réveillez ce matin, les enfants restent à l'école, dormez donc un petit peu plus ou restez couchés au lit, profitez-en. Ben un peu de Cœur de pirate, ça va nous réchauffer le cœur. Anaïs, bonne journée.
Salut, à demain.
Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse y trembler ensemble. Et si le jour vient pas, et la nuit est perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
6h30 précise, moment d'aller joindre Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube. Bonjour Philippe-Vincent.
Salut Marianne.
Le premier ministre a dit ce sera le 17 que les enfants retournent en classe et on a persisté, on a signé pour le 17. Ben finalement, pour plusieurs, ça va être le 18.
Oui, malheureusement, à cause de la tempête aujourd'hui. C'est juste un petit mot, dans le fond, de réaliser à quel point des fois on pense qu'on est capable d'avoir le contrôle, on pense qu'on a réussi à... La pandémie, on l'a géré, on voit la lumière au bout du tunnel. Il y a des surprises, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Je pense que cette tempête de neige aujourd'hui doit nous en faire prendre conscience. Il reste encore plusieurs semaines, plusieurs mois avec cette pandémie-là. Il y a des mois, des semaines où on n'aura pas le contrôle, on ne comprendra pas ce qui va se passer. La tempête, c'est juste un petit rappel, ça nous arrive d'en face. On sait quoi faire, par contre, quand il y a une tempête. On va déneiger, ça va prendre du temps. On ferme les écoles quelques heures, quelques jours des fois, mais oui. Espérons que ça soit juste une journée. Le problème avec la pandémie, c'est qu'on ne sait pas encore comment faire exactement. Et c'est là que ça devient compliqué.
Ouais. Disons que les deux dernières années nous ont appris justement qu'on avait très peu de contrôle à un certain moment devant les choses. Parlons justement de la pandémie, de l'évolution de la situation épidémiologique. On disait que ce sera le pire week-end. On a vu le nombre d'hospitalisations qui a continué de monter. Bon, bonne nouvelle, semblerait là, que ça ralentisse un peu. Là, aujourd'hui, il devrait y avoir moins de 100 hospitalisations nouvelles, mais ça continue quand même d'augmenter.
Oui, bien c'est ça. Il y avait une bonne nouvelle peut-être dans le devoir. Là, on nous disait que durant la fin de semaine, on était à peu près à 90 % dans certains hôpitaux. Donc, c'était peut-être un peu moins pire qu'anticipé, mais on ne voit pas encore le plateau en termes d'augmentation des hospitalisations. Là, on est passé à 3 300. Si on est en bas de 100, ça augmente quand même. Ça fait encore des gens qu'on doit traiter, notamment à cause de la COVID ou qui ont la COVID. Et ça, pour le moment, on ne sait pas exactement à quel moment ça va ralentir. C'est tant mieux si ça ralentit. Espérons bientôt voir une inversion dans les tendances. Donc, plus de monde qui sort de l'hôpital que de monde qui y entre, mais on n'est pas encore rendu là. Ça préoccupe beaucoup de monde. On le voit dans le Journal de Montréal ce matin, des infirmières qui sont complètement au bout du rouleau. Leurs vacances ont été annulées, qui regardent les primes, qui disent « Regardez, c'est pas de ça qu'on a besoin en ce moment, on a juste besoin de souffler. Si vous voulez nous faire encore du temps supplémentaire obligatoire après les 14 jours que je viens de faire, les quelques heures de pause que j'ai eues avant une autre semaine de 7 jours complètes, écoutez, je vais juste quitter le réseau. » Et c'est ça le gros problème aussi auquel on va être confronté. Les gens sont à bout. Depuis 2 ans, on les a tirés au bout du rouleau. Plus on tire, bien, plus il y a de monde qui vont partir et qui ne reviendront pas. Mmh. Espérons que ceux qui ont eu la COVID, là, les 20 000 qui sont partis, qui sont à peu près 15 000 en ce moment, puissent revenir. On a bien hâte d'avoir une mise à jour là-dessus.
Parlons du N95. Je sais pas si tu connais l'expression « trop fort casse pas ». Là, pourquoi ne pas dire « ben écoutez, on en a des N95 » parce qu'on a dit que c'était pas un problème là, d'approvisionnement ou de stock comme tel. On les a, on vous les amène et vous, professeur, ben vous avez le choix. Dépendamment de comment vous êtes à l'aise, de votre statut vaccinal, de celui des élèves devant vous, des parents, ben vous aurez le choix entre un masque de procédure ou un N95. Non, là, on dit pas d'N95 pour les professeurs de classe régulière.
Oui, puis je pense qu'il va bientôt aussi falloir ajouter dans notre vocabulaire le KN95, parce que le N95, ouais, c'est vraiment le masque chirurgical. T'sais, il n'est pas très confortable. Il se colle dans votre visage. C'est difficile. Mm. Il est ajusté. Et on a créé, dans, je ne sais pas à quel moment, mais je l'ai connu, moi, dans les dernières semaines, ce masque KN95. Ouais. C'est un peu la version pour monsieur, madame, tout le monde. Il est un peu moins chirurgical, un peu moins inconfortable. Il ressemble un masque de procédure, mais il vient bien sceller le tour du visage. Et là, je veux dire, moi, après ça, je suis pas expert en masque, là, ni en aérosol, mais j'en lis certains ce matin, notamment sur le site de Radio-Canada, où on se dit comment ça se fait qu'au Québec et au Canada, on n'est pas plus... on l'utilise pas davantage, ce masque-là, dans la grande population. Je regardais le CDC aux États-Unis, qui est le Center for Disease and Control, qui dit, regardez, c'est le meilleur masque. Si vous pouvez l'utiliser dans des endroits où il y a beaucoup de monde, des endroits clos, où la ventilation n'est pas optimale, faites-le. Même le gouvernement fédéral dit, si vous êtes capable de l'utiliser, utilisez-le. Alors, sincèrement, c'est un peu particulier d'abord de ne pas le recommander. Après ça, il doit y avoir des études qui prouvent que c'est pas nécessairement efficace pour le moment. Est-ce que ça va changer? Fort probablement. Le fait de pas, après ça, le donner puis dites, essayez-le. Si vous voulez l'aimer, adoptez-le, tant mieux. On va même, dans certains centres de services scolaires, à l'interdire. À Montréal, notamment, on l'interdit. On dit, vous ne pouvez même pas le mettre si vous en avez à la maison. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus virer fou. Là. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires là-dedans qui ont décidé, eux, que c'était ça, puis l'application de la loi, il fallait qu'elle soit très, très, très rigide pour les professeurs. Mais à un moment donné, si les professeurs ajoutent, ça leur donne un sentiment de sécurité supplémentaire, si ça peut les protéger,
il va
vraiment falloir que quelqu'un m'explique pourquoi on ne le fait pas, là, puis en plus qu'on va leur interdire. Là.
Merci beaucoup, Philippe Vincent.
Salut,
bonne
Marianne.
Journée de tempête
ben
à toi.
Ben oui, profitez-en si vous pouvez rester couché aujourd'hui.
Oh oui.
Au revoir.
Cube Radio. Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
Cube Radio.
Salut Jean-François.
Allô Philippe Vincent, bon début de semaine.
Ben bon début de semaine à toi aussi. Allons en Australie pour nous changer de notre paysage nordique ici. Et Denis Shapovalov qui a gagné son premier match.
Ouais, j'ai regardé ça ce match-là hier. Il a trimé dur quand même. Il jouait contre Jerry, mais finalement, ça me fait rire qu'il jouait contre Jerry. finalement, il l'a emporté en 4 manches. Et ce soir, ça vous tente d'écouter du tennis. Leila qui débute son tournoi et Félix Auger-Aliassim aussi. Mais ce qui a retenu l'attention, évidemment, du côté de l'Australie en fin de semaine, c'est Novak Djokovic. On s'est tenu debout quand même du côté de l'Australie. Et on a décidé qu'il n'allait pas rentrer au pays, donc on l'a remis dans un avion, il est reparti à la maison. Je trouve quand même, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, je trouve qu'il a quand même bien réagi. T'sais, moi, j'étais pour l'Australie dans cette histoire-là. J'aime pas d'entrée de jeu Novak Djokovic, je l'ai toujours trouvé arrogant. Sauf qu'il a dit, là, il était très repentant dans ses excuses, et il a dit qu'il voulait pas créer une telle controverse autour de lui, qu'il voulait pas avoir l'attention au lieu de que l'attention soit portée sur le tennis là depuis une semaine. Fait qu'au moins il s'est excusé, je pense qu'il a bien fait ça, il a sauvé la face au niveau entre autres de ses commanditaires.
Ouais, c'est une façon justement de garder ses commanditaires dans la poche. J'ai hâte de voir par contre s'il va aller en France, s'il va venir au Canada, parce que ça fait partie des... normalement des règles pour venir jouer dans certains tournois. Donc, est-ce qu'on va être en mode Novak pourra pas jouer pendant un an ou deux dans les certaines grandes régions? Il va pouvoir aller aux États-Unis. Là, mais...
écoute, lui qui court pour être le plus grand de tous les temps, là, il est à la poursuite de plusieurs records là, avec Federer et Nadal. À mon avis, là, s'il commence à sentir la soupe chaude, les vaccins vont se faire aller. Là. Ça, c'est mon feeling. Mm. Mais peut-être que dans les autres pays, on va être un peu plus conciliant. D'ailleurs, du côté des joueurs, c'était mitigé. Hein. Il y en a qui étaient pour Djokovic et d'autres qui faisaient comme, mais c'est pas de sa faute. On lui a dit qu'il allait pouvoir jouer de cette façon-là. Fait qu'il y avait des deux.
Bon, au moins, il va y avoir du tennis. On va pouvoir parler du sport et non plus des controverses autour de la COVID, espérons-le. Football, c'est le début des séries.
Ouais, c'était le début des séries. C'était une belle fin de semaine de sport, honnêtement, avec le tennis, avec la NFL. Donc, résumé des matchs du week-end. Les Bills ont fait qu'une bouchée, les Pats 47-17. Les Bengals, première victoire en éliminatoire en plus de 30 ans. Donc, les Bengals 26-19 contre les Raiders. Les Buccaneers ont éliminé, malheureusement, l'équipe de Mario Dumont 31-19. Donc, victoire contre les Eagles. Les Chiefs, hier soir, victoire de 42-21 contre les Steelers, ce qui signifie la retraite pour Ben Roethlisberger, le grand quart arrière des Steelers après une formidable carrière. Et le meilleur match du week-end, à mon avis, ça a été celui entre les 49ers et les Cowboys qui s'est terminé dans les derniers instants du match. Victoire de 23-17 des 49ers. Il reste un match ce soir là, pour la première ronde éliminatoire entre les Cards et les Rams et ça promet d'être tout un affrontement. Donc, vous avez une belle soirée de sport encore une fois.
Ben oui, parce que là, vous allez peut-être être pogné à la maison de toute façon toute la journée, fait que ça va changer les idées. Il y a du hockey cet après-midi?
Ben non, ben c'est ça. C'est ça, là, même si on est pogné à la maison, à partir de 16h, il y a le match du Canadien contre les Coyotes.
Gros match. Là, une fois que... Gros match.
Gros match, je t'en reparle. Et là, tout de suite après, t'as les Cards contre les Rams.
Hein? Fait que
t'as vois-tu la suite logique de la soirée, là? C'est parti pour à partir de 4h, on écoute du sport.
Mm. Et donc, puis au moins, ça va aller en augmentant l'intérêt ou la qualité du jeu, mettons.
Non. Ah, là, je suis pas d'accord du tout avec toi, là. Ah ben non, parce que le Canadien et les Coyotes, c'est un match très important.
Pour la dernière place dans la Ligue.
Exactement. C'est les deux dernières équipes de la Ligue. Donc, s'il y en a une qui veut garder le premier choix et la chance de terminer dernier, ça prend une défaite ce soir. Donc, le Canadien qui joue contre les Coyotes. Bonne nouvelle peut-être du côté du Canadien. Josh Anderson pourrait être de retour au jeu. Ça leur ferait pas de tort. Et on va surveiller cet affrontement-là quand même. C'est rare les matchs en après-midi. Donc, en journée de tempête de neige. Fait que je pense qu'il va y avoir pas mal de gens devant leur téléviseur. Donc, Canadien-Coyotes. Et on apprend que peut-être plus tard cette semaine, aurait finalement un DG à Montréal. La grosse rumeur veut que l'annonce se fasse mercredi.
Chantal Maccabée disait à tout le monde en parle hier.
Moi, j'ai bien hâte, honnêtement. Hâte qu'on donne une ligne directrice à cette équipe-là. On fait des farces, là, mais tu sais, quand on est rendu à faire des blagues, puis il y avait un article hier dans les différents quotidiens, là, comme quoi ce serait peut-être la pire saison depuis la saison de la guerre, là, après Aurel Joliat et tout ça.
Oui,
mon Dieu, on est-tu vraiment rendu là et pitoyable à ce point-là? Et moi, je pense que ça passe par un DG. Ça passe par un DG, par Gorton qui descend dans le vestiaire et sentir autant au niveau des partisans qu'au niveau des joueurs que, OK, là, on vient de trouver notre structure et là, on va décider qui reste, qui part, qui va avoir des contrats à la fin de l'année, qui en aura pas et que ça se sente dans le vestiaire, que l'effort doit être au rendez-vous et qu'on va pas accepter des demi-mesures comme c'est le cas depuis le début de l'année. Et je pense que ça part en haut par les têtes dirigeantes qui vont venir donner cette rectitude-là. Et on y va, puis on regarde par en avant, puis donner peut-être un vote de confiance à Ducharme. Mais en tout cas, bref, qu'il se passe quelque chose et que les joueurs n'aient pas le choix de suivre par la suite. Parce que présentement, pas de capitaine, pas de joueur de concession en Carey Price, qui est le grand frère de tout le monde, pas de directeur général, pas de Gallagher, pas de Byron, qui étaient des assistants au capitaine. Ça manque de leaders grandement dans cette équipe-là et même dans l'organisation au grand complet. Puis je pense que le DG va venir régler une bonne partie de ça.
Jean-François, bonne journée de tempête de neige et de sport qui commence à 16h avec cet excellent match Canadien-Coyote.
Salut, là.
La crème des affaires publiques. Philippe Vincent Foisy. Aussi percutant que votre première gorgée de café. Le commentaire de
Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
Salut Michel.
Bonjour Philippe Vincent.
Alors, le Québec qui remporte la palme au Canada sur les taxes et les impôts et 9e rang dans l'OCDE. C'est pas pire quand même.
Oui, effectivement. Regarde, c'est fantastique de voir ça. Donc, la grande question qui demeure, est-ce que tous ces impôts et taxes que nous payons de plus que les autres provinces, est-ce que nous obtenons en retour des services publics à la hauteur de cet écart-là? Ça, c'est la grande question, puis évidemment, j'ai pas la réponse. Tout comme d'ailleurs les auteurs de l'étude, c'est Luc, le fiscaliste, professeur Luc Godbout, qui est titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, et ses collègues qui ont produit... ont présenté la semaine dernière le bilan de la fiscalité au Québec, leur édition 2022. Ils font ça une fois par année. Or, et ça nous permet de constater qu'en 2020, tiens-toi bien, nous avons quand même versé globalement en taxes et impôts 174 milliards. 174 milliards, pour ton information, c'est 39 % du PIB du Québec.
Quand même, hein?
Non, mais tu sais, c'est quand même respectable. C'est pour ça que nous sommes les numéro un, les plus lourdement taxés au pays. Puis neuvième quand même au monde, parce que quand dans l'OCDE, c'est tous les grands pays qui se retrouvent là. Il y en a 39. Alors, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, non, parce que les taxes et les impôts, c'est large comme le monde, mais tu sais, on est numéro un quand même pour l'impôt concrètement là, sur le revenu des particuliers. Pour également les impôts payés par les sociétés, pour l'impôt sur les salaires, ça c'est la contribution des compagnies au fonds des services de santé, puis les cotisations sociales, assurance emploi, assurance parentale, assurance médicaments, bon, ARQ. Or, mais quand c'est vrai que bon, puis en 2020, 174 milliards, faut que tu saches que c'est quasiment le même montant que l'année précédente, 2019, qui était une année économique normale, alors qu'en 2020 et le PIB avait reculé de près de 6 % le PIB réel. Or, ça veut dire que l'impôt et les taxes, ça garde la forme.
ça ne change pas. Il y a des choses inchangeables dans la vie, puis ça, c'en est deux.
Oui, effectivement. Et aussi, à noter, et ça m'a frappé, les compagnies, les grandes entreprises, écoute, il y a 42 % des grandes entreprises, selon les dernières statistiques fiscales qui étaient disponibles, n'ont pas payé d'impôts, toi.
Ah ouais.
Et puis ça monte à 60 % chez les petites entreprises, puis à près de 40 % chez les moyennes entreprises. Alors ça veut dire qu'il y a bien des entreprises qui trouvent le moyen, par des crédits d'impôt, etc., de ne pas payer un cent d'impôt. Donc, on compte sur les Québécois pour renflouer les coffres de l'État.
Chance qu'on est là. Parle-moi justement de cet argent public qui va servir possiblement, ces beaux impôts-là, à réinvestir dans les C-Series. Là, on a déjà perdu quand même, je pense que c'était 1 milliard là-dedans.
1,3 milliard. Ah. Écoute, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça ce matin. C'est un article de nos collègues Olivier Bouc et puis Sylvain Larocque qui, écoute, semble-t-il là, que effectivement le gouvernement Legault serait prêt à injecter 200 millions de dollars de plus dans l'ex-C-Series qui est devenu l'A220 de la multinationale française Airbus. Et oui, parce que là, le ministre... Le grand pourvoyeur des fonds, le ministre Pierre Fitzgibbon, semble-t-il, c'est lui là, qui ferait les démarches auprès de Legault notamment, puis du Conseil des ministres pour les convaincre que ce serait théoriquement une bonne idée de réinjecter. Écoute, c'est pas des farces, là. Nos collègues ont fait le bilan de tout ce qui a été injecté dans le développement de la C-Series. Il y a eu 1,3 milliard de Québec, mais faut savoir qu'il y en avait 600 millions également d'Ottawa là-dedans, là. Donc, on est rendu actuellement à 1,9 milliard. Et puis, au dernier décompte, le gouvernement Pierre Fitzgibbon nous avait annoncé que ça valait plus une scène, notre placement de 1,3 milliard dans la C-Series.
Ben oui.
Écoute, moi, j'ai hâte de voir les arguments qu'on va évoquer là, pour réinjecter 200 millions de plus dans... Ça finit jamais, hein? Garde. Puis, bon.
C'est parce que si au moins, on pouvait faire de l'argent...
Ben c'est ça. Mais c'est parce qu'on nous faisait croire qu'on était pour en faire au départ. Puis après ça, on nous a fait croire ça vaut plus grand chose, mais on protège les emplois. Puis là, finalement, tu te rends compte qu'il y aura besoin d'un autre 200 millions. C'est un puits sans fond, hein?
C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Puis là, il faut savoir que la C-Service, on l'a donné à Airbus.
En plus, non, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, comment tu penses que les gens deviennent millionnaires?
Ouais, ben, c'est
inquiétant au gouvernement.
Dans ce cas-ci, milliardaire.
Oui, ben c'est ça. Je pense que c'était milliardaire, justement. Bon, ben écoute, c'est...
Voilà pour la journée, là.
Ben écoute, ça commence bien la journée, Michel. Merci beaucoup, là.
Bye.
pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Michel Girard est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Gros dossier dans le Journal de Montréal ce matin, un homme d'affaires montréalais d'origine iranienne qui a été arrêté pour exportation de matériel pour produire des armes nucléaires en Iran. Un gros dossier de deux pages. On en parle tout avec la journaliste Marie-Christine Trottier, qui est journaliste section argent au Journal de Montréal. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va, ça va. Raconte-nous cette histoire-là de Reza Sarangpour Kafrani.
Oui, juste avant de commencer, je suis recherchiste en fait pour le bureau d'enquête. Je collabore évidemment avec les gens de la section Arva.
Parfait.
Donc Jean-Michel là, qui co-signe le texte avec moi.
Parfait. Ben raconte-nous cette histoire-là.
Oui, ben en fait, ça date de l'été dernier. On avait déjà sorti la nouvelle qu'un homme d'origine iranienne, Reza Sarangpour Kafrani, avait été arrêté aux États-Unis, mais on n'avait pas beaucoup plus de détails. On savait qu'il était accusé par les États-Unis d'avoir exporté du matériel pouvant aider à fabriquer des armes nucléaires, mais on connaissait rien, on savait pas qu'est-ce qui s'en venait pour lui, on savait pas nécessairement non plus qu'il avait des entreprises ici à Montréal, qu'il employait des gens. Donc nous, on a fouillé tout ça, puis on est tombé sur des documents judiciaires notamment là qui racontent un peu plus son histoire. Et le monsieur est en détention aux États-Unis là depuis son arrestation à la frontière de la Colle Champlain début juillet. Puis il a vécu des choses qui semblent assez difficiles. Il était en prison jusqu'à la fin novembre. Puis maintenant, il est assigné à détention à domicile depuis ce temps-là, en attendant son procès.
Mais est-ce qu'on sait exactement de quoi il est accusé? Est-ce que ça a du bon sens? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Est-ce que c'est comme une erreur? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'on en sait?
Ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que les documents de poursuite donnent quand même beaucoup de détails, là. C'est ce qui nous a permis aussi d'élaborer autant dans notre dossier. On sait qu'il a exporté du matériel de laboratoire qui a une double fonction, essentiellement des spectromètres de masse, là. J'entrerai pas dans les détails à quoi ça sert, parce que c'est assez complexe.
C'est du matériel très technologique là, qui nous sert.
C'est ça. Exactement. Puis le matériel en question, il sert à vérifier, par exemple, notamment si, par exemple, de l'uranium est suffisamment enrichi. Puis l'uranium enrichi, ça permet de fabriquer, entre autres, des armes nucléaires. Donc, ce matériel-là en question, il est prohibé par différents traités internationaux et les États-Unis ont mis un embargo sur l'Iran à cause justement, en fait, pour empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Donc, ça prend des permis spéciaux pour pouvoir exporter ce matériel-là. Il a essayé d'obtenir les permis en question à l'aide d'un complice. Il a été refusé à deux reprises. Là, ils ont fait deux demandes pendant l'année 2016. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a utilisé un autre chemin. Donc, il a importé au Canada le matériel en question. Et il l'a envoyé d'abord aux Émirats arabes unis, puis ensuite, à l'aide d'autres complices, vers l'Iran. Donc, c'est ce stratagème-là, là, l'interdiction, le contournement des qui lui valent ces accusations-là.
Ouais, puis lui, il se défend. En même temps, il est en train de perdre pas mal d'argent, puis ses entreprises ici sont un peu en train de couler, là.
Oui, exactement. Donc, il avait deux entreprises là, lors de son arrestation qui devaient travailler main dans la main, en tout cas selon ce qu'on comprend, selon leur site Internet, puis comme ils ont un nom assez similaire. La première entreprise, Avilife Lab, elle est, dans le fond, il a passé les commandes à sa femme là, qui restait à Montréal. Il a une femme, deux filles à Montréal. Malheureusement, pour eux, ben elle a dû déclarer faillite. Là, il a quand même plusieurs millions de dollars de dettes depuis, ce qu'on découvre avec les documents du syndic de faillite. L'autre entreprise, elle n'est pas en faillite, par contre. Donc, elle fonctionne toujours. Mais oui, la première entreprise, il n'y a pas grand-chose qu'ils pouvaient faire avec les dettes qu'ils avaient. Là, c'était difficile.
Puis est-ce qu'on a une date pour la suite des événements? Est-ce qu'on sait à quel moment on pourrait connaître un dénouement dans tout ça?
Oui, en fait, cette semaine, il est dû pour retourner en cours jeudi. Donc, on va avoir des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer en cours. Mais il est assigné à domicile en attendant. Au moins, c'est déjà ça. Là. Il y a un bon Saint-Martin qui a accepté de l'héberger puis de mettre en garantie sa propriété pour l'aider à payer sa caution en attendant. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, il se connaissait pas du tout. Homme à Washington. Non, c'est ça. Il dit faire une très bonne action, puis il héberge dans un appartement. Il doit surveiller 3 fois par jour. C'est quand même particulier, mais faut croire qu'il a le cœur sur la main. Là.
Ben, Christine Trottier, du bureau d'enquête, merci d'avoir été là ce matin.
Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.
Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Hello.
Alors Benoît, situation durant la fin de semaine, moins grave aux soins intensifs?
Ben, paraît-il, selon Le Devoir, situation moins grave que prévu aux soins intensifs ce week-end. C'est finalement le taux d'occupation dans les urgences oscillé autour de 90%. Ça va très bien, beaucoup de marge de manœuvre. Écoute, tu sais, marcher sur un fil de fer, là, puis regarder en bas, puis dire si je tombe, je vais me la péter solide.
Ouais.
On est là-dedans pour les services de santé hier.
Mais les hospitalisations qui continuent quand même d'augmenter, on nous dit ça augmente moins vite, mais ça continue d'augmenter. Là.
C'est ça. C'est pas que ça s'améliore, c'est juste que ça s'empire pas à la vitesse qu'on avait prévu.
C'est moins pire.
Donc on est positif en ce matin de tempête de neige.
Oui, d'ailleurs, de la neige, ça va te permettre d'aller faire du ski de fond hier. C'est extraordinaire.
Ah,
il faisait froid, c'était le fun, on bougeait. Ah oui, j'ai hâte de voir si Mario et sa raquette.
Moi, j'ai posé des trucs au mur, puis j'ai arrangé des armoires, puis des bibliothèques à l'intérieur.
Ah, j'ai pas fait ça d'or. Chanceux.
Disons, est-ce que je me posais la question là, sur le sujet de la... des urgences, là.
Ouais.
Puis, tu sais, parce qu'on dit, là, l'immunité acquise par la vaccination puis l'agressivité atténuée du variant actuel donne aussi un peu de répit aux soignants. Puis je me disais, est-ce que la première dose est encore pertinente, elle est encore efficace? Est-ce qu'on devrait parler encore de cette première dose qui me semble assez lointaine?
Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au non-vacciné? Ben,
est-ce qu'il y a est-ce que ça a une signification? Parce que là, on dit, Omicron, là, même si t'as une deuxième dose, faut aller chercher la troisième, faut que tu te protèges, faut que tu augmentes, ton système immunitaire. Mais, est-ce que la première dose doit être évaluée aussi? Est-ce qu'on doit tenir compte de la première dose encore si elle n'a plus aucune efficacité?
Moi, j'ai l'impression que la deuxième dose a moins d'efficacité après 6 mois. Il y a cet aspect-là aussi. Là.
Imagine la première.
Non, mais la première, si mettons t'as la première aujourd'hui, t'as quand même une immunité contre la COVID de façon générale qui est meilleure que si t'en as aucune. Là.
Que si t'en as pas pensé.
C'est ça. C'est souvent, ça dépend, tu compares à quoi. T'sais, si tu compares, mettons, la deuxième dose à quand tu viens de l'avoir 2 semaines après ou 7-8 mois plus tard avec un nouveau variant, c'est sûr que c'est moins efficace, mais c'est encore bien plus efficace que si t'en avais pas pantoute. Là.
Ouais. Donc, si t'es Djokovic, t'es mieux avec même une seule dose que pas pantoute.
Ouais. D'ailleurs, ça, qu'est-ce que t'en penses?
Ouf. Peu.
Non, mais en même temps, tu sais, il n'y a pas de passe-droit en Australie. Là.
Non, mais ça a l'air qu'il va changer son prénom pour Novax.
Novax Djokovic.
Novax Djokovic. Il veut pas se faire vacciner. Tu sais, j'ai même pas moi qui est quelqu'un. Je pense que c'est Alexandre Moranville qui me l'a sorti celle-là. Ce qui est sympathique de l'Australie là-dedans, c'est qu'on applique les mêmes règles aux multimillionnaires. Mais ce que j'entends dire, c'est que Djokovic va poursuivre la presse pour 15 millions de dollars. C'est un choix personnel. C'est une invasion de sa vie privée. Il va réfléchir à la discrimination qu'il vit à bord de son jet privé.
Ouais.
On a beaucoup de... Tu sais, mais ça au moins, là, c'est comme multimillionnaire ou pas.
En Australie, il y a des règles qui sont là pour tout le monde.
C'est ça. Puis là, on va pas plier parce que toi, t'as une série d'avocats là qui viennent nous écœurer parce que tu veux venir jouer au tennis puis remporter des millions de dollars. Non, ça s'applique. Si tu veux venir, viens, t'es le bienvenu, fais-toi vacciner avant. Il me semble que c'est une politique assez simple.
Ouais. Mario, Djokovic?
Ben, j'ai eu la chance d'écrire là-dessus la semaine passée. Moi, c'est la première chose, c'est la déception, hein. Je sais pas, on se faisait une image d'abord un grand champion, mais on se faisait aussi une image d'une certaine classe, puis quand même des gens, les sportifs de ce niveau-là écoute, par la nature des choses, ils ont une culture générale qui s'élargit, ils voyagent tout le temps, ils vont d'un pays à l'autre, etc., etc. Bon, on s'entend qu'ils voyagent pas en classe économique, puis ils couchent pas dans les hôtels de bord d'autoroute, là, t'sais, ils sont quand même gâtés, mais puis de voir se comporter comme ça, se présenter. Tu sais, déjà, si tu fais du sport sur la scène internationale, tu devrais être parmi les plus rigoureux à te faire vacciner parce que tu vas aller d'un pays à l'autre, les règles de voyage. Alors, de voir tout ça, les mensonges, les tricheries pour essayer de se faire accepter en Australie par des moyens détournés, etc., etc., Moi, je suis vraiment très déçu. Pour le reste, il est arrivé ce qui devait... T'sais, pour moi, l'événement, il y a peu à commenter. Il est arrivé exactement ce qui était prévisible, ce qui devait arriver. Bon, la Serbie a beau être insultée, là. Salut la Serbie, là.
Mais il paraît qu'il a fait ses recherches, Djokovic. C'est pour ça, là. Il veut. Mais tu sais, quand t'es en forme comme ça, là.
Il attend un vaccin serbe.
Il attend Medicago, lui aussi.
Oui.
C'est peut-être ça.
Mais quand t'es dans ce genre de forme physique, là, j'imagine, j'essaie de me mettre dans sa tête, là. Mais pas dans son portefeuille. Mais tu sais, tu dis, tu dois pas vouloir mettre quoi que ce soit dans ton corps qui va peut-être changer ta performance ou ton état physique ou de, tu sais, tu dois avoir une espèce de, je l'excuse pas là, moi je trouve qu'il est complètement zinzin là, mais tu sais, tu dois être obsédé mais à temps plein là sur ton corps pis sur ta capacité de performer comme athlète pis parce qu'autrement je comprends pas sa réaction puis son choix.
Mais là, c'est plein d'athlètes vaccinés puis je veux dire t'as pas lu d'article comme quoi les sprinteurs vaccinés, leur temps sur le 100 mètres
a augmenté. Non, non, mais attends, les sprinteurs, eux autres, sont pas un vaccin prêt, ni une injection prête.
Non, mais tu sais, y a rien de documenté présentement sur le fait que ta performance sportive serait modifiée, là.
Ah, ben, pas selon Lucie Laurier.
Non, mais je lisais, un texte quand même sur le fait que Djokovic est un peu particulier là-dessus, là, qui a un... quelqu'un qui était au départ son préparateur mental, pas physique, mais puis que c'est devenu plus comme gourou, à caractère quasi religieux, extrémiste un peu. Bon, je sais pas s'il y a de ça, là. Parce que souvent,
d'être boqué à ce point-là, là. Là, tu dis non, tu rentres pas, puis non, tu participeras pas au tournoi, puis t'es un des meilleurs au monde, puis là, au lieu de dire, ah, fuck it, je vais me faire vacciner, puis on va y aller. Non, on s'obstine, puis on va en cours, puis on veut protester, puis on a... Vraiment, ça me dépasse, moi. C'est comme conviction personnelle, là. J'en ai peu comme ça, moi.
Mais en même temps, il devient un peu le porte-étendard d'une certaine façon de cette mouvance. Ouais, c'est ça, un martyr. Ouais. On l'empêche de jouer au tennis... l'empêche d'aller en Australie.
Mais on fait un tournoi juste pour les non-vaccinés.
Ouais. Mais de l'autre côté, il ne peut plus rentrer en Australie, mais à mon avis, il ne pourra plus rentrer dans bien des pays. Là. Il va être bloqué dans la plupart des pays du monde dorénavant. Ça pourrait marquer la fin de sa carrière qui va finir put-put. Là. Je comprends qu'il va finir en héros des non-vaccinés, martyrs, messie planétaire. Là. Mais pour l'autre 90% de la population, il va finir comme... pas fort.
Il est peut-être blessé au haut du corps, tu sais, puis il veut pas le dire.
Bien haut dans le corps.
Okay. Cette tempête-là, est-ce que, tu sais, moi, ce matin, là, j'aurais aimé ça qu'on se parle, pas des profs, pas des centres de services, pas du ministre de l'Éducation, pas des compagnies d'autobus scolaires, mais des enfants.
Oui.
Cette semaine, là, je vous informe, moi, chez nous, là, de notre côté, là, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Il n'y a pas de cours à distance non plus, parce que ça a l'air qu'on ne sait pas comment faire. Vendredi, c'est une journée pédagogique.
Ouais.
Et dans un mois, c'est la semaine de relâche.
Mm.
Là, tu dis, est-ce qu'on peut pas comme faire quelques efforts pour s'assurer qu'on va donner quelques enseignements aux enfants? Ça, je trouve ça un peu... Je commence, tu sais, j'ai appuyé les profs, puis je vais aller au front, mais il me semble que là, il n'y a pas beaucoup de discussions à propos des enfants et ce qu'ils vont apprendre en cette année scolaire. Ça fait un peu dur, je trouve, là. Tu sais, il y a un peu de neige. Les compagnies d'autobus scolaires disent, oh non, mon Dieu, on va rester poignés dans les bancs de neige. C'est peut-être en région, mais autour du Grand Montréal métropolitain, là. Vraiment? À 3 heures cet après-midi, là, ça va être impraticable? Vraiment? Comment on a fait, nous autres, quand on était petits, puis il y avait des tempêtes de neige?
Ah, oh, mais regarde ce que ça a donné, là.
C'est vrai, ouais, que c'est pas l'exemple à suivre.
Il y avait pas d'école.
Non, mais ce qui est drôle, c'est
qu'effectivement, là, maintenant que l'enseignement à distance organisé est possible, on pourrait penser qu'on...
Que les journées de neige deviennent
ben
des journées d'enseignement à distance.
Mais là, c'est
comme si
les tempêtes de neige, on a droit à ça, là. Ça existait avant, on a droit aux tempêtes de neige. Ça fait que... sont inscrites en passant, les tempêtes de neige sont inscrites dans le calendrier maintenant.
Ouais. Ouais.
Et si elles ne sont pas utilisées, ça donne des journées de congé au mois de mai, là. Je me souviens plus du nom, ça a un nom très humoristique, d'ailleurs, qui veut dire que c'est une journée flottante, c'est comme une journée de tempête non utilisée.
Ouais. Là, à un moment donné, il va falloir qu'on s'occupe des enfants un peu, là. Faire qu'on soit capable, le bulletin a été reporté en février, tout est reporté, puis on a l'impression, on se dit, oh, on va tout le monde s'accommoder au détriment des enfants. Ben, il va falloir que M. Roberge, là, se revienne en point de presse puis dire, OK, là, on va se ramener à l'ordre un peu, puis on va penser aux enfants jusqu'en juin prochain. Puis comment on fait, là, pour s'assurer qu'ils passent l'année? Moi, ma fille est en 6e année, là, elle s'en va au secondaire l'année prochaine. Tu sais, les petits pits sont là, puis ils passent une année à apprendre un petit peu. On a appris que là, c'est une femme du service de garde qui va prendre en charge une des classes. Moi, je veux bien, là. Mais ça veut dire quoi, là? Elle va passer des films? Elle va faire... tu sais, ils organisent même pas des quiz, ils organisent rien.
Mais dans certains cas, l'enseignant va enseigner à distance. Dans certains cas, quand on va avoir une personne surveillante, tu vas voir l'enseignement à distance ni plus ni moins qu'inversé, là. C'est que l'enseignant va enseigner à distance.
Ouais.
Avec un surveillant physiquement sur place. Quand l'enseignant a la COVID, là.
Mais moi, je vous le dis, là, il y a aussi des femmes qui travaillent au service de garde qui se ramassent en charge de classe. Puis là, je trouve que là, ça suffit. Je trouve vraiment que ça suffit. Tu sais, on parle même pas de personnel qui sont en train d'aller chercher leur brevet pour devenir enseignant. On parle de femmes qui sont au service de garde puis ils se ramassent avec des classes. On est mal pris.
Pour surveiller une journée ou deux pour titulaire pour le reste de l'année, là?
Ben, peut-être pas pour le reste de l'année, mais pour une couple de semaines, une couple de mois, on sait pas si l'autre va revenir, si elle revient, on sait pas combien de temps elle va rester. C'est comme là, c'est vraiment le free-for-all, là. T'sais, puis on se ramasse avec des classes où les gens qui sont devant sont pas formés, mais zéro, là. T'sais, quand t'as un diplôme universitaire, là, quand t'as un bac ou une maîtrise, t'es au contrôle d'une certaine information, là. T'as passé à travers, t'sais, certaines étapes en pédagogie. Mais quand t'en as même pas, mais là, t'es en charge de classe.
Ouais, c'est du gardiennage, là.
Ça devient du gardiennage. On passe des films. Écoute, on passe du film, là, t'sais, comme si on n'avait pas à la maison, s'il n'y avait pas de problème de temps écran à la maison.
En même temps, on pourrait revoir les grands classiques québécois, t'sais, puis on pourrait repasser les films de Jean-Claude Laure, on pourrait revenir sur les grands classiques. Puis...
Ouais, parlez-nous d'amour pour des enfants de 10 ans, je suis pas sûr. Tu sens de même.
Non, mais il y en a d'autres, là. Baleine et la grenouille, par exemple.
Oui, 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 ben oui.
Je voulais vous entendre sur l'insatisfaction envers le gouvernement Legault. Là, on a vu un sondage la semaine dernière. On baisse dans l'opinion publique, l'adhésion, mesure, cette frustration-là. Est-ce que, par exemple, Dr. Arruda servait un peu de paratonnerre? Il y a comme une frustration, puis on dirait qu'on ne sait plus vers qui la diriger. Puis là, de plus en plus, ben, François Legault va peut-être perdre des plumes là-dedans, là.
Ah, François Legault perd des plumes. Et moi, si j'avais un conseil au gouvernement, là, c'est... faites-vous oublier un peu, là. veux dire, tu sais, on a l'habitude de dire un gouvernement, là, c'est un peu caricatural, mais un gouvernement gagne de la popularité souvent en été parce qu'on n'entend pas parler de lui pendant deux mois. Et je prends l'exemple, juste un petit exemple, mais la fermeture des commerces trois dimanches. Est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée? Probablement que ça a fait l'affaire de certains. C'est sûr qu'il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre, puis il y a quelque chose qui est réel, mais en même temps, d'autres gens, ça les a énervés. Voyons pourquoi. Mais il reste que c'était, comment dire, c'est ce qu'on appellerait en anglais du micro-management, là, de la micro-gestion, là, tu sais, le gouvernement qui regarde ça, puis qui dit, ouais, là, je ferme les restaurants, je ferme ci, mais là, les commerces, eux autres. Et je pense qu'il y a comme. Comme de la part du gouvernement, oui, on comprend les mesures sanitaires, oui, il fallait casser la vague, il fallait faire quelque chose, il n'y a pas de doute, puis il semble qu'on ait peut-être même réussi, peut-être même plus vite qu'ailleurs, en tout cas, on verra les prochaines semaines, mais il y a un point où tu as le goût de dire au gouvernement, slack un peu, là, t'as pas besoin de tout gérer, de tout occuper, de voir à tout, laisse le monde vivre un peu, décider un peu, peut-être que le gouvernement s'est habitué avec les mesures sanitaires, puis en temps de pandémie, à tout aiguiller, là. Mais moi, si j'avais un conseil au gouvernement, c'est donne de l'air. Là. T'sais, des décisions comme ça, là, de dire que trois dimanches bien précis, trois dates, faut que les commerces restent fermés. Laisse-les aller. Là. Ceux qui veulent fermer, fermeront. Ceux qui veulent rester ouverts, vont rester ouverts. Mais à un moment donné, un gouvernement qui veut trop en faire, même en voulant bien faire, vouloir trop en faire, là, trop de monde qui parle de toi, ça finira pas bien.
Là, puis je t'écoutais tantôt, Philippe Vincent, LCN, sur le masque N95, puis KN95, puis...
Il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt, me dit c'est le même genre de masque, les deux sont à 95% efficaces, mais qu'il y en a un qui c'est un standard chinois, l'autre c'est un standard américain.
Mais cette tendance-là à dire non, ça vous le ferez pas, alors qu'ils ont échappé le ballon à plusieurs reprises là, sur des choix... on reviendra pas là-dessus ce matin, là, c'est juste lundi, on va pas se casser les oreilles avec ça. Mais, tu sais, d'arriver puis dire non, vous l'aurez pas, alors qu'on en a et qu'on s'apprête à s'en débarrasser puis à les vendre.
Ouais.
Au lieu de les distribuer puis dire si ça vous convient, prenez-les, ils sont là. Non, on veut contrôler vraiment, là, les bonhommes, là. Tu sais, les bonhommes au pouvoir, là. Ce dont on est tanné souvent, là, les petits monsieur qui disent « Oh non, c'est moi le boss, puis je vais vous dire comment faire, là, les petits boss. » Ben là, on commence à voir ça, puis Dr. Boileau, il a l'air d'avoir un petit profil de petit boss, là, qui arrive, puis dit « Non, N95, vous autres, les petites madames, là, dans les clubs, vous savez pas ce que vous voulez, puis vous savez pas ce qui est bon pour vous, on va décider à votre place. » Ben là, à un moment donné, flexible, un peu, tu sais, les commerces, on rouvre, puis les choix personnels, vous aviez respecté les choix personnels des non-vaccinés, respectez donc les choix personnels des enseignantes à vouloir ou non le masque N95 pour se sentir plus en sécurité dans une classe.
J'ai une question sur la vaccination obligatoire. J'entendais François Legault hier, tout le monde en parle, dire on peut pas au Québec. Là. Légalement, juridiquement, ça se fait pas, alors que ça se fait au Canada, par exemple.
T'étais pas au courant pour
c'est une nouvelle.
Le football? C'était les finales de la NFL la fin de semaine.
Oui, je sais.
À la même heure.
Mais c'était les séries, là. Ça commence. Là. J'ai joué dehors une grande partie de la journée. Et après, je fais la popote. Et on a regardé, tout le monde en parle au début, parce que c'était quand même notre premier ministre qui était là. Mais veux-tu nous parler de football? Parce que j'ai entendu dire que ton équipe a perdu. Fait que c'était peut-être ça que tu voulais...
Lessivé, mais c'était prévu.
OK.
Mais c'était pire encore qu'imaginable. Mais en fait, c'était un peu plate parce que toutes les équipes. Il n'y a rien qu'un match où l'équipe adverse n'a pas fait lessiver. Fait que...
C'est à cause du vaccin. J'ai
une question sérieuse sur la vaccination obligatoire. Pour les travailleurs. Parce que là, on dit, bon, février, il va y avoir un projet de loi là, pour cette contribution santé, mais pourquoi on fait pas un projet de loi pour permettre aux employeurs de forcer la vaccination? Ou pour la forcer, par exemple, à la SAQ, puis dans les commerces de détail, où il y a un contact entre client et employeur, où on va forcer le passeport vaccinal.
Mais c'est curieux, ça, Philippe Vincent, parce que on semble pas vouloir du tout aller de ce côté-là, du côté du gouvernement du Québec. Et le pays qui en fait le moins pour la COVID, les États-Unis, qui a les mesures les plus souples, qui a plus de cas, plus de décès, plus de tout, plus d'hospitalisés que n'importe où sur Terre, ben eux, les États-Unis, c'est ça, ils ont fait ce geste-là, alors que nous, on a fait 50 autres affaires qu'eux n'ont pas faites. On semble pas prêt à aller là, alors que c'est aux États-Unis, c'est essentiellement la seule mesure. On a donné aux employeurs, surtout pour les grands employeurs, là, des géants qui ont des milliers, des dizaines de milliers d'employés, le droit, le pouvoir, remarque, c'est contesté devant les tribunaux, mais d'exiger la vaccination de leurs employés. Ici, je sais pas, on semble convaincu que ça passera pas le test, je sais pas, que ça passera pas le test des tribunaux, où on a peur, où on veut pas... Mais moi, je serais plutôt pour ça.
Ben, en tout cas, j'ai juste l'impression de ne pas comprendre. Mais ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive.
Et ça, c'est l'usure, là. L'usure du temps, là. C'est les contradictions qui se multiplient, les questions qu'on se pose, puis auxquelles on n'a pas les réponses. Pourquoi il n'y a pas de vaccination obligatoire pour les employés de l'État, par exemple? Est-ce qu'on peut commencer par ça?
Ça, c'est simple à comprendre, là, parce que on voulait commencer par ça avec les employés de la santé. On aurait peut-être élargi à d'autres après. Mais si tu peux pas faire vacciner les employés de la santé, parce qu'il te manque de personnel, puis que tout le système va craquer, bien, est-ce que tu vas faire vacciner les employés de la SAQ, du ministère du Revenu? Tu vas te faire dire, bien, voyons, t'es bien ridicule. Ceux qui soignent des patients, qui sont en contact avec des patients malades, t'es fait pas vacciner de façon obligatoire, mais tu fais vacciner de façon obligatoire ceux qui checkent les rapports d'impôts enfermés dans un bureau.
Oui, mais mettons, là, tu vas dans les deux. Tu le mets, mettons, pour la SAQ, parce que tu dis qu'il n'y aura pas de bris de service, puis on oblige le passeport vaccinal pour les clients. On va commencer là.
Mais une fois que tu as choqué un bon Québécois, une fois que tu ne l'as pas fait pour le personnel de la santé,
une fois que t'as plié,
t'as perdu ton élan pour le faire pour quiconque d'autre. Je pense qu'à la fin, c'est ça.
Hier, j'ai commencé à regarder l'entrevue. Florence m'a dit que ça commençait là avec Monsieur Legault. Tout le monde en parle. Puis j'attendais les questions
parce que c'était comme ça commençait lentement.
Ben c'était comme toutes les questions d'un point de presse. Là. C'est tout ce qu'on savait déjà. On l'a comme ramené. Là, je me disais, il me semble que c'est l'occasion justement de dire, on sait que ça vous l'avez décidé, puis poser des questions un peu plus corsées. Mais c'est comme si on l'a pas brassé un peu là, Monsieur Legault. Puis je pense qu'on a besoin de le brasser. Puis il y avait, puis je voyais, tu sais, des réactions sur Twitter, des gens qui disaient, ouais ben faites attention là sur les données, c'est pas clair comme ça, ou le nombre, tu sais, de gens au Québec aux soins intensifs face aux gens en Ontario. Ouais. Tu sais, là on commence à utiliser les chiffres puis à dire attendez, la façon que vous lisez les chiffres, c'est peut-être pas la seule façon de le faire. Mais c'est ça, puis là, à un moment donné, j'ai arrêté parce que
t'es allé regarder du football. Messieurs,
c'est tout.
À demain.
Bye bye.
Pour parler à Philippe Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO.
Cube Radio.
On attendait une fin de semaine difficile dans les hôpitaux du Québec. Le Devoir nous dit, bon, les urgences à peu près à 90% finalement, un peu moins pire que prévu. Ceci dit, les hospitalisations continuent d'augmenter. On en parle tout de suite avec le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Simon, bonjour.
Bon lundi, M. Foisy.
Comment ça va après cette fin de semaine, quand vous regardez le nombre de cas qui continuent d'augmenter, en fait, les hospitalisations qui continuent d'augmenter, un peu moins rapide que ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, mais quand même, ça continue d'augmenter. Vous vous sentez comment ce matin?
Mais on peut trouver une certaine réassurance dans le fait qu'on a à peu près eu une centaine de nouvelles hospitalisations par jour au cours des 4 derniers jours, ce qui est moitié moins de ce qui était le fait de la même période la semaine dernière. Mais c'est 100 de plus, c'est pas 100 de moins, c'est 100 de plus dans un réseau qui est déjà en délestage, je vous dirais pas maximal, mais en délestage extrêmement significatif. Il y a de la place, mais cette place-là se fait pas avec UO, elle se fait en empêchant d'autres patients de se retrouver dans des soins qui, peut-être électifs au début de la pandémie, le sont de moins en moins, puis c'est ça qui nous fatigue. Puis là, vous avez la carte secrète de la rentrée scolaire aujourd'hui, qui sera peut-être un peu repoussée par la tempête, ceci étant dit, on y voit un signe. Mais c'est sûr qu'avec les mesures d'isolement qui sont prévues pour les familles en cas de contact avec le COVID à l'école, ben ça risque de retirer du travail beaucoup d'acteurs du réseau de la santé au moment où on a vraiment besoin de tout le monde. Donc, il y a un... Et je voudrais que on avait dit beaucoup on avait fait monter les enchères sur cette fin de semaine-ci, puis c'est vrai. Mais les prochains jours, les prochaines semaines ne seront pas nécessairement faciles, puis on sortira pas de cette cinquième vague-là avant plusieurs semaines encore, même si le pic est probablement derrière nous.
Ouais, parce que, en tout cas, l'impression, c'est oui, on a peut-être à passer le pic, mais que ça continue encore, puis que ce plateau-là, il n'est pas à un niveau optimal. Là. On n'est pas à un niveau où, finalement, ça va bien, puis on peut penser que dans les prochains jours, ça va se calmer. Là.
C'est comme un cycliste sur un faux plat. C'est pas un col, mais c'est un faux plat prolongé.
Il est long, là.
On est sur un faux plat avec très peu de descente depuis 22-23 mois maintenant. Puis ça, on commence à avoir un peu de fatigue dans le réseau, très clairement. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là. On est au service des Québécois, puis on va l'être. Et puis, je suis fatigué un peu de l'idée de protéger le réseau. On protège pas le réseau, on protège la société en faisant les bons choix. La vaccination, les contacts sociaux de façon responsable. Puis, écoutez, on va s'en tirer, mais ça va laisser un goût amer chez tout le monde.
On voit ce matin dans le journal de Montréal des infirmières qui sont complètement à bout, qui disent, regardez, si vous voulez que je fasse encore du temps supplémentaire, vous voulez encore faire du délestage, oubliez ça, là, vous allez me perdre, puis ce sera fini. Vous le sentez, ça?
C'est le danger. C'est le danger. Il y a des gens. Le réseau de la santé compte sur des travailleurs qui sont hautement spécialisés et la défection de quelques-uns d'entre eux peut mettre à mal des plateaux techniques et des trajectoires de façon assez rapide. C'est l'illusion qu'un travailleur peut en remplacer un autre de façon facile et bien lubrifiée. Ce n'est qu'une illusion parce que, écoutez, vous ne devenez pas une infirmière de salle d'opération, un inhalothérapeute de soins intensifs. Du jour au lendemain, il faut de la formation, puis les gens les plus âgés, un peu fatigué par la pandémie, commence à se dire « Ouais, est-ce que je vais endurer ça encore bien longtemps? » Beaucoup sont revenus ou ont retardé leur retraite, mais ces efforts-là tiennent un temps. Puis j'ai peur que le temps commence à nous manquer.
Parce que là, on est à peu près en délestage 4 partout dans plusieurs régions. Il y en a qui pensent peut-être aller au niveau 5. Je veux dire, concrètement, dans votre quotidien, vous, ça se traduit comment dans des cas concrets, là?
Ici, à l'UCPQ, on est un hôpital qui fait trois missions. On fait le cancer pulmonaire, on fait la chirurgie cardiaque, puis on fait la chirurgie bariatrique. C'est une chirurgie qui est désignée pour faire perdre du poids à des obèses très, très sévères qui ont des conséquences sur leur état de santé. Depuis la cinquième vague, on a complètement coupé dans la chirurgie bariatrique. Donc, il y a beaucoup de patients qui attendent de cette chirurgie-là depuis déjà très longtemps, qui sont repoussés. Et on commence, vous voyez, les salles d'opération fonctionnent à peu près à 50-55% de leur capacité. Et puis, on parle pas là, de chirurgie très élective, quand on parle de remplacement de valves cardiaques, de pontage ou d'un cancer pulmonaire. Alors, manifestement, il y a une liste d'attente qui va s'allonger et qui nous fait peur, là, qui on veut pas qu'il y ait de conséquences pour ces patients-là. Puis c'est partout pareil dans le réseau. Les missions importantes, non électives, commencent à être lourdement impactées par l'accumulation de la charge COVID.
Est-ce qu'on voit un bout? Est-ce que vous êtes capable de dire, comme dans votre équipe, regardez, encore un mois, puis on va y arriver, ou même ça, ce serait trop optimiste?
Il faut s'accrocher à quelque chose.
Ouais. Hein?
Puis entre l'optimisme et le pessimisme, il y a
le réalisme.
Il y a le réalisme entre les deux, mais le réalisme, le problème, c'est qu'il s'ancre dans le concret, puis le concret change de jour en jour avec le COVID, surtout avec l'Omicron, qui évolue si rapidement. On fait des plans, nous, pour que en la deuxième semaine de février, on puisse être revenu à peu près à nos activités routinières. Mais ça assume un paquet de choses qui sont pour l'instant difficiles à prévoir parce que les données manquent. Et puis même si les données sont là, vous avez vu, on pensait avoir vaincu le Delta. Puis l'Omicron s'est invité dans la discussion et a complètement chamboulé les perspectives en dedans de 2 ou 3 semaines. Donc, écoutez, oui, j'espère qu'en février, on va pouvoir reprendre du service. Je pense que tous les travailleurs de la santé et la société en général doivent s'accrocher à cette perspective-là. L'Omicron a été suffisamment contagieux pour peut-être nous amener dans la direction de l'endémie parce que beaucoup de gens l'ont fait et la maladie est moins sévère. Mais ce n'est que supposition à ce moment-ci. Puis je regarde les gens qui font beaucoup de pronostications bien éduqués. Puis je me dis, ouais, il faut pas... vous savez, quand on est un scientifique, quand on est un médecin, quand on est quelqu'un qui intervient sur la place publique, il faut moduler son intervention en disant ce qui est vrai, en envoyant une perspective, mais en étant très, très humble de tes propres prédictions, puis surtout des reproches que tu adresses aux autres, parce que c'est une situation pour laquelle il n'y a pas de précédent, et à travers laquelle on navigue un peu à l'aveugle, puis je pense qu'on va naviguer vers le port, mais le port est encore à quelques encablures.
Ouais. Si ça nous a appris quelque chose, c'est qu'on n'aura pas nécessairement toujours le contrôle comme on pourrait le souhaiter l'avoir. La tempête de neige aujourd'hui aussi nous le rappelle. Docteur Mathieu Simon, on vous souhaite de bonnes semaines quand même, de passer au travers de ça avec la rentrée scolaire qui va quand même être difficile, comme vous le disiez, manque de personnel et tout. Merci d'avoir été là ce matin. Merci de votre travail aussi.
Merci, M. Foisy. Puis apprenons à nous adapter. Je pense que ça va être un des apprentissages de la pandémie. Puis apprenons à être solidaires des décisions. Vous savez, se faire juger au rétrospectoscope est toujours très douloureux.
M. Simon, le message est entendu.
Bonjour.
Au revoir.
Philippe Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio.
En direct à Salut Bonjour.
Si, ouais. La rentrée scolaire est perturbée par ce mauvais temps sur le Québec. Allons voir Philippe Vincent.
Salut Philippe Vincent.
Salut Georges. Salut
Dino. Pas trop loin, j'espère.
Pardon?
Salut.
Ta pelle est pas trop loin?
Non, non, non. Il y en a une dans l'auto, il y en a une sur la galerie, puis une en arrière. On est paré à toute éventualité.
Mais ça montre jusqu'à quel point... Ça monte, excuse-moi, jusqu'à quel point on contrôle pas grand-chose, dans le fond, même une rentrée scolaire.
Ouais, ben c'est un petit rappel ce matin. On l'espérait, on la voulait, on la prévoyait depuis plusieurs semaines. Et c'est comme tu le dis, ça montre que le contrôle dans la vie, surtout ces temps-ci, il y en a pas beaucoup, avec Omicron encore plus. Et donc ce matin, c'est peut-être juste une occasion un peu philosophique de dire... Malgré tout, là, même si politiquement on voulait, même si on a tout fait les efforts pour que ça fonctionne, il y a encore des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. On peut être frustré contre le virus, on peut être frustré contre Dame Nature, mais ce matin, on a comme pas le choix là, de vivre avec. Puis je pense que c'est un peu le message aussi pour les prochaines semaines. Ça va être important d'accepter ce qu'on contrôle pas. Là.
Ouais. Est-ce que François Legault a raison de dire qu'on a passé le pic ou qu'on est à peu près là?
Ben, j'aimerais ça dire oui, j'aimerais ça être en mesure d'avoir toutes les données, les bonnes données, les bons chiffres aussi qui nous permettent de voir ça. Le pic peut-être qu'il est franchi, les hospitalisations augmentent moins vite qu'avant. Par contre, elles augmentent encore. Donc, on est encore dans une hausse du nombre d'hospitalisations liées à la COVID. C'est pas mal le chiffre là, qu'on a décidé d'utiliser parce qu'on ne teste plus suffisamment les gens dans la population en général. C'est peut-être une bonne nouvelle de savoir ça, mais je viens tout juste de parler au docteur Mathieu Simon qui me disait même là, s'il fallait que le pic, là, le pire, ce soit en fin de semaine, bien, sachez quand même que les prochains jours ne s'amélioreront pas comme ça en criant ciseaux. Il y a encore énormément de travail, énormément de patients, du personnel qui est à bout. Puis il me dit bien, la rentrée scolaire demain, le gros enjeu, c'est pas nécessairement la contamination de tes enfants, c'est aussi tout le personnel qui a des enfants à l'école qui va fort probablement devoir s'isoler 5 jours quand un enfant va avoir des symptômes. Et ça va compliquer encore plus le travail du réseau. Là.
Qu'est-ce qui arrive avec la vaccination obligatoire du côté du fédéral?
Du côté du fédéral, ça se poursuit pour les fonctionnaires, pour les employés, notamment des banques, transports. On l'a imposé aussi pour le camionnage, malgré une certaine confusion. Et donc, je pensais à ce que François Legault disait hier en entrevue, à Tout le monde en parle, il disait « juridiquement, on ne peut pas ». C'est assez particulier comme argument. Là. Si au gouvernement fédéral, on peut, pourquoi on pourrait pas au Québec? Est-ce que la meilleure stratégie pour la vaccination puis encourager les gens à se faire vacciner, c'est une contribution santé? Est-ce que c'est vraiment le meilleur prochain pas plus que d'obliger, par exemple, les gens dans les SAQ, les gens dans les commerces de détail qui sont en contact avec des clients qui, eux, sont obligés d'être vaccinés? Est-ce que ce serait pas nécessairement la meilleure des étapes ou du moins d'avoir ce débat-là? Donc, le fait de dire on peut pas parce que juridiquement, on peut pas, on l'a essayé un peu dans le système de la santé sans trop savoir si c'était juridique. C'était une drôle d'explication hier du premier ministre François Legault, alors qu'on voit clairement qu'on ne pouvait pas le faire dans le système public de la santé parce qu'on n'a pas assez de monde. Mais dans d'autres secteurs, on pourrait l'essayer, on pourrait le faire, puis on pourrait voir si ça passe le test des tribunaux. Ça pourrait même se faire beaucoup plus rapidement qu'une contribution santé. Et donc, on pourrait avoir l'argument de l'urgence pour justifier aussi la mesure, là.
Merci beaucoup, Philippe Vincent, et bonne journée de tempête.
Bonne journée de pelletage. Faites attention à vos dos.
Oui.
Cube Radio.
Il démystifie les enjeux de société avec finesse et ingéniosité. Philippe-Vincent Foisy. Une diplomatie qui a de l'audace.
Cube Radio.
Si vous venez de vous lever, que les rideaux sont fermés, sachez que la tempête s'abat et frappe pas mal Montréal vers 4 heures. J'étais pas sûr si ça allait arriver. Là, je regarde à l'extérieur et sincèrement, on ne voit pas grand-chose. Le vent, il est là, il est fort. Moins 12 en ce moment. Montréal, on atteint un maximum de moins 4. Pour parler de cette tempête, ce que ça veut dire, on en a pour combien de temps de cette neige-là? Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada, est avec nous. Monsieur Bégin, bonjour.
Bon matin.
Bon, cette neige-là commence... On a pour combien de temps? Ça s'en va où?
C'est déjà très bien commencé.
Oui, vraiment. Racontez-nous un peu ce qui se passe avec la météo. Là.
Oui, on a déjà reçu entre 3 et 5 cm sur l'île de Montréal et la rive sud. On a déjà des visibilités réduites à nul par endroit, ce qui a déjà causé une sortie de route sur la rive sud. Donc déjà, là, en fait, ça cause déjà des problèmes. Les vents et la neige vont s'intensifier dans les prochaines heures. Là. C'est pas le pire. Là. Donc,
Il
faut s'attendre à ce que ça s'envenime. On a de la neige forte là, à la frontière, là, en fait, ou vers la frontière américaine. Tout ça, ça s'amène vers l'île de Montréal. Les vents vont également prendre encore plus de vigueur. On a des rafales à près de 40-50 km/h. Ça va augmenter à 60-70 km/h par endroit. Donc, le pire est à venir. Il faut garder ça en tête. Donc, les conditions routières vont se détériorer rapidement partout, si c'est pas déjà le cas, à cause de la neige parfois forte et la poudrerie, ce qui va causer des conditions de très mauvaise visibilité. Pour ceux qui peuvent reporter leur déplacement, c'est pas encore trop tard pour le faire ou prendre la décision de faire du télétravail. Évidemment, pour ceux qui le peuvent, ça serait préférable de le faire, alors que pour ceux qui doivent absolument prendre la route, faut se préparer à faire face à des conditions routières très difficiles ce matin. En fait, je vous dirais toute la journée, ça va graduellement perdre en intensité tout ça. En fin d'après-midi, en soirée pour la région de Montréal, évidemment un peu plus tard, là, graduellement, si on s'en va vers le centre du Québec, ça commence un peu plus tard ce matin, donc ça va se terminer un peu plus tard également. La neige va devenir résiduelle au courant de la nuit là, prochaine, si bien que demain matin, on est complètement tiré d'affaire. Le froid va s'engouffrer derrière, donc il faut s'attendre à ce que ce soit quand même assez froid pour mardi, les températures qui vont chuter dans les moins 20 là, pour la nuit de mardi à mercredi. Puis on surveille un autre système, là, mais de moins grande importance là, pour mercredi, mais qui pourrait quand même laisser un 10 à 15 cm par endroit.
Plus le 20 à 25 qu'on attend aujourd'hui.
Et en fait, un petit peu plus que 20 à 25, je vous dirais 20 à 30 là, pour englober en fait les secteurs là, bon, du Grand Montréal, mais aussi en s'en allant un peu plus vers la rive nord de Montréal. Et on a de moins en moins de neige plus on va vers l'Estrie. Donc, les secteurs là, du sud-est de l'Estrie là, en recevront beaucoup moins, 5 à 10. Donc, ça donne une idée. 5 à 10 cm aujourd'hui, alors que c'est à près de 5 cm là, au courant de la nuit. Bref, un 10 à 15 cm là, pour la région de l'Estrie.
Oui, puis comme vous le dites, c'est pas juste une tempête de neige avec de la grosse neige. Là. Il y a du vent, donc sincèrement, c'est une vraie grosse tempête. Là.
Oui, ben en fait, c'est ce qui correspond à la définition d'une tempête, parce que bon, sinon on appelle plus ça une bordée de neige.
C'est ça, c'est pas une bordée.
C'est ça, exactement. Là, c'est définitivement une tempête.
Jean-Philippe Bégin, d'Environnement Canada, merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Il y a encore pas mal d'inquiétudes, même si pour beaucoup, ce matin, la rentrée a été reportée en présentiel à demain. Mais il y a beaucoup de parents qui sont inquiets, qui ont des craintes de voir leur enfant envoyé à l'école, des craintes pour eux, des craintes pour le réseau de la santé. On en parle tout de suite avec Marie Saint-Laurent, qui est maman de deux jeunes enfants de 5 et 8 ans. Madame Saint-Laurent, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment ça va ce matin? Allez-vous à l'école en présentiel ou la tempête a bousillé un peu les plans aujourd'hui?
Je pense que le choix a été fait pour nous ce matin, donc c'est la tempête, donc on est tous à la maison. Sinon, je pense que cette semaine, moi, on avait décidé de garder les enfants à la maison.
Ah ouais, hein? Pour les protéger ou pour quelle raison en particulier?
Pour les protéger, pour donner un petit peu de temps à l'école aussi de se préparer mieux. L'impression qu'on a, nous, notre opinion, c'est que on réouvre trop tôt puis qu'on n'est pas prêt puis qu'il y a plus qu'on aurait pu faire pour mieux préparer les écoles. Alors, c'est un petit peu pour... un peu pour ça, là, on veut que le réseau puisse s'adapter puis prendre le temps de mettre des meilleures mesures en place avant de rouvrir puis de donner la COVID à tout le monde.
Parce que ce que j'entends, là, ce que vous me dites, c'est que vous n'êtes pas vraiment convaincu là, par le ministre de l'Éducation qui dit N'inquiétez-vous pas, le risque zéro n'existe pas, mais tout est fait pour que la rentrée se fasse adéquatement. Pour le bien-être des enfants, vaut mieux les envoyer à l'école que de les garder à la maison. La COVID est moins dangereuse pour eux. Vous avez de la difficulté un peu à croire ce qu'il dit, là.
Ben ça peut dur à avaler quand on pense que l'optimisme un petit peu leur optimisme nous a conduit à la cinquième vague qui ont dit qu'ils n'ont pas vu venir puis qui venait d'Europe gros comme le bras, donc c'est un petit peu difficile de faire confiance où on en est. Mais non, moi je pense que comme on aurait pu faire beaucoup plus, comme c'est spécial qu'on essaie de réouvrir au moment où la capacité hospitalière n'a pas nécessairement stabilisé, nos travailleurs de la santé sont brûlés. Puis là, c'est pendant que les écoles sont fermées, les restaurants sont fermés. Donc, si on réouvre les écoles, qui était un des plus gros vecteurs de transmission avant les fêtes, là, c'est fermé. Si on réouvre, c'est ça qu'on va avoir énormément de cas. Ça va péter. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas donné le temps aux familles d'aller chercher leur troisième dose pour les parents, le personnel la troisième dose. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas eu le temps d'avoir leur deuxième dose non plus. Donc, si on donnait un petit peu plus de temps, je pense qu'on serait mieux protégés pour absorber ça, puis aussi comme mettre des mesures en place, c'est comme une adoption d'un meilleur masque, puis des choses comme ça qu'on aurait pu faire de plus dans les écoles qu'on n'a pas fait. Les tests rapides sont pas encore arrivés. Donc, on va les avoir au moment où les enfants vont être en contact avec d'autres enfants contagieux. On va les avoir à temps pour savoir que l'enfant l'a attrapé, mais on ne pourra pas s'en servir pour dépister de façon préventive afin de garder les enfants contagieux à la maison. Donc, c'est ça, on est comme tout désorganisé. On veut réouvrir vite parce que les familles ont besoin de support, mais on n'est pas nécessairement aussi prêt qu'on pourrait l'être avec les outils qu'on a.
Puis à la maison, vous, ça fonctionne bien? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent on est incapable de fonctionner. Il y a des parents enseignants, par exemple, des parents infirmiers qui disent on n'y arrive pas simplement à la maison, ça se peut pas, je ne peux pas être aussi bon pour mes enfants, pour leur apprentissage que l'école, par exemple. Est-ce que vous, ça se passe quand même bien?
Nous, ça se passe bien. C'est sûr qu'on n'est pas, c'est pas le cas de tout le monde, puis on comprend ça. C'est sûr que comme c'est intenable de faire l'école à la maison, de travailler à la maison. Tu sais, ça, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, ça marche pas à long terme. C'est insoutenable, puis on comprend que nous, on est deux, ça se va bien, les enfants sont de bonne humeur. On a beaucoup joué dehors, fait que leur morale est bon. On a des super bonnes enseignantes qui ont très bien fait ça, l'enseignement à distance, donc ça s'est bien passé. Mais on réalise que c'est pas tout le monde qui est dans notre situation non plus. Il y a des gens que c'est sûr qu'ils sont à bout, puis ça se comprend. Puis les parents qui ont des enfants en garderie qui se sont tapés la grève des CPE sont brûlés. Donc c'est normal que les familles aient besoin de plus de support, mais je sais pas que d'envoyer les enfants à l'école puis de se faire donner la COVID, c'est le support dont ils ont besoin. Donc c'est sûr que c'est un problème complexe, il n'y a pas de solution facile pour tout le monde. Nous, ça marche pour nous. Mais il y a aussi des familles qui sont très vulnérables aussi. Il y a des familles il y a des parents qui sont immunosupprimés, ils vivent avec des grands-parents. Donc, ces gens-là aussi vont être tous mis dans le même bain. Puis ça aurait été bien que les familles plus vulnérables puissent avoir l'option à long terme d'avoir l'école à distance. Pour pouvoir prendre les choix, eux, pour leur famille, qui les protégerait mieux, dans le fond.
Mais là, pendant que vous gardez vos enfants cette semaine à la maison, est-ce qu'il va y avoir de l'enseignement quand même, ou c'est vous qui devez faire la formation? Est-ce que le professeur va quand même faire un peu d'hybride, ou...
Non. Là, nous, c'est en présentiel, donc si on choisit de ne pas les envoyer, il n'y aura pas d'école pour les... Nous, on va les garder quelques semaines pour voir un peu comment ça se passe. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de cas. Donc, c'est sûr que je ne peux pas m'improviser professeur. Je n'ai pas cette compétence-là, donc je ne vais pas m'improviser puis me faire croire que je vais être aussi bonne que ce qu'ils reçoivent à l'école. Donc, ça, c'est sûr que c'est une perte de ce côté-là. On est prêt à l'absorber.
Puis, qu'est-ce que ça prendrait? Parce que là, vous avez parlé de meilleurs masques, par exemple. On pense au N95 notamment, mais est-ce qu'il y a d'autres choses concrètement que vous aimeriez voir, qui pourraient vous rassurer? T'sais, si on vous dit, regardez, la semaine prochaine, on va mettre XY en place, seriez-vous rassuré si on mettait ça? Ce serait quoi qui vous rassurerait pour que lundi prochain, par exemple, vous puissiez les envoyer, ou même vendredi?
Hein? Pour vendredi, c'est sûr que, comme idéalement, il y aurait des purificateurs d'air dans les classes, comme dans le réseau anglophone, comme dans les écoles privées. Nous, on s'est fait dire que ça servait à rien, puis on s'est fait interdire de les mettre dans les classes. Donc ça, c'est frustrant. Ça aurait dû être installé à l'été 2020, idéalement. C'est sûr qu'on ne les aura pas pour la semaine prochaine, mais si on pouvait justement mettre des purificateurs d'air dans les classes, acheter des meilleurs masques. Donc, ça veut dire que le N95 est inconfortable. Il existe toutes sortes de modèles qui sont excellents aussi, qui servent de masques respirateurs. Il y a le N95 qui est très confortable, qui est en modèle adulte et enfant. Donc, acheter les meilleurs matériels possibles. de aussi de s'organiser autour de nos tests rapides. On s'achète des tests rapides, on ne sait pas vraiment dire comment les utiliser. Il y a des écoles qui utilisent la méthode qui s'appelle le test CCA. Donc, ils testent de façon régulière pour pouvoir identifier les cas qui sont pré-symptomatiques, qui sont contagieux avant de les envoyer à l'école. Donc, ça, ça permet de prévoir, de prévenir plus de contagions aussi. Donc, avoir, tu sais, mettre des mesures, c'est pas mal tous les outils qu'on a. Si on mettait ça en place, je pourrais, au moins, on pourrait se dire, on a fait le mieux qu'on pouvait, c'est sûr qu'il va y avoir des cas quand même parce que c'est hyper contagieux. Il y en a partout dans le monde. On regarde ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Colombie-Britannique, où ils ont réouvert. C'est sûr que c'est le même virus, ça va être la même chose chez nous, dans le fond. Mais ouais, des mesures comme ça, je pense que ça démontrerait au moins qu'il y a un désir d'implémenter tous les outils qu'on a. Parce que nous aussi, on veut que les écoles s'ouvrent, mais on aimerait ça qu'elles restent ouvertes. Sans sacrifier la santé des travailleurs de la santé, des professeurs, des familles vulnérables. Donc, on peut faire plus.
Marie-Saint-Laurent, merci d'avoir été là avec nous. Bonne semaine à la maison avec un S. Donc, on vous souhaite quand même une rentrée qui va être correcte en santé pour les enfants dans quelques semaines. Merci d'avoir été là ce matin.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Pendant que le monde entier attend la fin de la pandémie, Philippe-Vincent Foisy continue de donner l'heure juste sur l'actualité. Vous écoutez
Cube Radio.
Le commentaire de
Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
Salut Sophie.
Bonjour Philippe-Vincent. Et oui, j'ai choisi la journée où il y a une grosse tempête de neige qui s'abat sur le Québec pour parler des gens qui sont allés à l'extérieur du pays et qui sont de retour. Écoute, on nous avait dit, il n'y a plus besoin de quarantaine. Vous faites un test si vous êtes doublement vacciné. Quand vous revenez au pays après un séjour à l'extérieur, vous devez évidemment faire un test PCR dans les 72 heures précédant votre départ, mais ici, à l'arrivée, vous n'avez plus besoin de faire la quarantaine si vous êtes doublement vacciné. Or, je ne sais pas si tu connais des gens qui ont voyagé récemment, non, qui sont revenus récemment de voyage. Moi, j'en connais et... le problème, ce que les gens disent, c'est que arrivé à l'aéroport, on fait des tests de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on choisit de façon aléatoire des individus. C'est arrivé, par exemple, à un couple d'amis à moi qui sont revenus de voyage. Ben, la fille a pu passer, puis le gars s'est fait dire, ben non, vous avez été choisi. Donc, au hasard, on vous fait un test PCR. Et vous devez vous isoler chez vous, sans aucun contact, sans rien faire, jusqu'à temps que vous ayez vos résultats. Le problème, c'est que les résultats prennent entre une semaine et 12 jours avant que t'aies les résultats. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez pas besoin de faire une quarantaine, mais le résultat, c'est que t'es obligé de rester chez toi entre une et deux semaines. Donc, dans les faits, on vous impose une quarantaine. La raison pour laquelle je te parle de ça ce matin, c'est pas parce que je trouve que ces gens-là font pitié, c'est parce qu'il y a une incohérence. Il y a une incohérence parce que on est en train de donc d'imposer des tests PCR, alors que on a vraiment un besoin réel en ce moment pour les tests PCR au pays. Puis il y a plein de provinces qui ont dit, ben on va arrêter de faire des tests PCR pour tout le monde, alors que ce serait très utile. Et il y a la conseillère scientifique en chef de Justin Trudeau et de son cabinet, on la connaît bien, Mona Nemer, qu'on suit évidemment depuis le début de la pandémie. Son rôle, c'est de conseiller le gouvernement, puis elle dit, arrêtez de faire ça, les mesures sont beaucoup trop sévères, on devrait pas faire ces tests-là, on devrait simplement donner aux gens un test rapide qui pourraient faire la journée de leur retour, puis deux jours plus tard. Et à ce moment-là, on pourrait alléger, parce qu'en ce moment, la compagnie qui fait les tests de PCR pour le gouvernement est complètement débordée. Mmh. Donc, non seulement on force des gens à faire une sorte de quarantaine qui ne porte pas son nom, mais en plus, on met une pression sur le système de tests au Canada, alors que ce serait bien plus utile de le faire pour la population en général. Les gens qui ont voyagé, ils ont fait un test PCR dans les 72 heures avant leur voyage. Donc, on est en train de très mal allouer les ressources. Et Mona Nemer, qui a pas la langue dans sa poche, dit, écoutez, il y a des solutions vraiment beaucoup plus simples. Et moi, je trouve que c'est beaucoup, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus logique de dire à quelqu'un qui revient, qui a de toute façon fait un test PCR, on donne un test rapide la première journée. Deux jours plus tard, tu fais un autre test rapide. Puis si tes deux tests sont négatifs, Ben, parce que tu l'as pas, la maudite
COVID.
T'es pas
contagieux. Puis il y a ça aussi, parce que mettons un enfant non vacciné qui revient de voyage, doit s'isoler 14 jours, mais un enfant non vacciné asymptomatique à l'école n'a pas besoin de s'isoler 14 jours, même si il a été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, là.
C'est ça, il y a plein d'incohérences et c'est ce que Mona Nemer pointe du doigt et les gens de l'opposition évidemment sont d'accord avec elle parce qu'ils disent le gouvernement en fait est incapable de gérer les tests de dépistage dans les aéroports, donc arrivez-nous avec des vraies solutions, des solutions qui sont simples. Et surtout ce que dit Mona Nemer, et je trouve que c'est très important de réfléchir là-dessus, elle dit de toute façon il y a un tel taux de transmission communautaire au pays même, que c'est pas les gens qui vont arriver à l'aéroport. C'est pas, le danger n'est plus là.
On est passé là, ouais, c'est ça.
Voilà. C'était peut-être le cas, évidemment, pour le variant Delta ou pour la première souche du virus, mais on n'est plus rendu là. L'Omicron est tellement transmissible que c'est pas... autrement dit, on concentre pas nos énergies au bon endroit, puis c'est pas les voyageurs qui reviennent et qui, de toute façon, je le rappelle, ont fait un test PCR dans les 72 heures précédant le voyage, c'est pas eux le danger. Donc, concentrons nos énergies ailleurs. Je trouvais que c'était important de le mentionner, même si aujourd'hui, avec la tempête de neige, on n'a pas vraiment envie d'avoir de la pitié ou de la compassion pour des gens qui reviennent de voyage, surtout s'ils arrivent du Sud, les petits coquins. Mais il reste quand même que c'est une question d'allocation de ressources, et je trouvais que Mona Nemer, encore une fois, parce que à plusieurs reprises pendant la pandémie, elle s'est illustrée par ses propos qui étaient pleins de bon sens, et je trouve que dans ce cas-ci, elle pose les bonnes questions puis elle demande une meilleure allocation des ressources.
Tu voulais revenir aussi sur ta chronique ce matin sur une actrice qui a mis une photo controversée sur Instagram.
Voilà. Alors donc c'est un scandale c'est une histoire qui a vu le jour la semaine dernière. Donc Nadia Essadiki qui joue dans la série Doute raisonnable qui est proposée à Radio-Canada, elle joue le rôle d'une policière, c'est une unité spéciale pour les agressions sexuelles. Bref, elle met une photo d'elle sur les médias sociaux pour faire la promotion de cette série-là et de son rôle dans la série. Donc elle joue le rôle d'un policier et sur sa photo, elle a rajouté les quatre lettres suivantes: ACAB. C'est un acronyme d'un mouvement qui existe à travers le monde depuis les années 30. ACAB, c'est les lettres de la phrase All cops are bastards. Tous les policiers sont des salauds. Et c'est un mouvement qui a vraiment pris plus d'ampleur les dernières années, à cause évidemment des événements comme George Floyd. Donc il y a plein de gens sur Terre qui pensent qu'en effet, tous les policiers sont des salauds, ce qui est une généralisation complètement stupide, un amalgame tout à fait haineux, parce que je veux dire, il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers, c'est comme dire tous les avocats sont véreux, tous les politiciens sont corrompus, ce sont des généralisations stupides. Donc cette comédienne met cet acronyme sur sa photo, et là évidemment il y a des gens qui se sont plaints à Radio-Canada, il y a des policiers qui ont fait des sorties en fin de semaine en disant on encourage la haine des policiers. La comédienne en question a dit « Ben moi, je voulais pas faire de peine à personne, je m'excuse auprès des gens que j'ai offensés. » Le problème, c'est qu'elle n'est pas la première à avoir utilisé cet acronyme-là, donc de se revendiquer de ce mouvement-là de généralisation sur les policiers. On pense, par exemple, l'année dernière, l'auteur-compositeur-interprète Safia Nolin, qui avait fait la même chose, elle s'était fait photographier avec un T-shirt avec le sigle ACAB, All Cops Are Bastards. Et c'est assez particulier dans le cas de Safia Nolin, parce que elle a raconté plusieurs fois en entrevue à quel point elle, dont le père est d'origine arabe, arabo-musulmane, il est algérien, à quel point elle, quand il y a eu le 11 septembre 2001, qu'elle a été victime de discrimination envers les personnes de culture arabo-musulmane, parce qu'à l'époque, les gens faisaient un amalgame. Les gens disaient, bon, ben, il y a des terroristes qui ont fait tomber les tours du World Trade Center. C'était des arabo-musulmans, donc tous les arabo-musulmans sont des terroristes. Safia Nolin a dit, c'est pas bien de faire des amalgames. Elle a tout à fait raison. Faire des généralisations, c'est des propos haineux. Elle a tout à fait raison. Mais elle-même fait des généralisations et fait des amalgames. Donc, il faut arrêter d'avoir ce deux poids, deux mesures, de dire, ah, oh, ben, les artistes, quand ils font des amalgames, c'est correct. Non. Faire ce genre d'amalgame et dire tous les policiers sont des salauds, c'est stupide. C'est une généralisation dangereuse, haineuse. Et c'est pour ça que ma chronique de ce matin s'intitule « Tous les policiers ne sont pas des salauds ». La preuve, Ben, tout District 31, c'est quand même des bonnes personnes.
Poupou. Merci, Sophie.
Poupou. Parle-moi pas sur Poupou, j'ai pas encore fait mon deuil.
Je sais, mais il y a une belle entrevue avec Sébastien Delorme, sa nouvelle série qui s'en vient. Tu vas pouvoir le retrouver, ne t'en fais pas.
Merci.
Salut, bonne journée. Richard, bonjour.
Salut, on vit dans une société de pénurie, alors on le sait qu'il y a une pénurie de profs, pénurie de camionneurs, pénurie de travailleurs de la santé, pénurie de commis dans les commerces. Et là, il y a un gros texte dans Le Devoir, tu as vu ça, pénurie de policiers. On peine maintenant à encourager les gens à devenir, les jeunes à devenir policiers. C'est très difficile de recruter, ça leur tente pas à cause de peut-être la rectitude politique qui rend la job de policier plus difficile, les gens qui te filment tout le temps, etc., les accusations de racisme, blablabla, de profilage racial. Donc, écoute, on va se retrouver. Le magazine Le Point en France.
Et j'allais te parler de ça sur la grande démission.
La grande démission, exactement, où les gens ne se leur tentent plus de travailler parce qu'ils ont pris goût à prendre ça relax ou alors ils changent de job et tout ça. Dans quelle société
Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir.
Il va y avoir plein de journalistes et de commentateurs partout. Ça, il en manque
ça,
pas.
Il
n'y a pas de pénurie de ça. Mais on va commenter sur quoi d'abord?
Sur nous autres. Richard, bonne émission.
Salut.
Merci à toute l'équipe, à Charlie, à Alexandre, Florence, Luc, Maude, toute l'équipe. À demain.
Cube Radio.